Kid. L'humanité, l'humanité. La persuasion, le silence. Informer, cultiver, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Bonjour, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Autre petit accrochage pour Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On est tous partagés entre rien de vraiment grave, puis de l'autre côté, tu dis, ouais, faut pas m'en donner les multiplier, là. Bizarre d'affaire, je vous dis vraiment, parce que en soi, c'était pas un débat si animé que ça, c'était pas un débat si chaud que ça. Il demande à François Legault qu'est-ce qu'il va faire, si va-tu devenir souverainiste s'il obtient pas ce qu'il veut. Puis là, François Legault, il fait juste y rétorquer, ouais, mais lui, là, s'il rate son troisième référendum, va-tu devenir membre de la CAQ? Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, voulant faire soit de l'humour ou montrer que c'est vraiment épouvantable d'être membre de la CAQ, il fait le geste de s'ouvrir les veines, en disant c'est mieux s'ouvrir les veines que de devenir membre de la CAQ. Mais bon, en 2024, prévention du suicide, campagne de sensibilisation de toutes sortes, c'est comme un geste peut-être qu'on fait dans sa maison, dans la vie privée, si on veut faire une blague en famille. Mais à l'Assemblée nationale, ça a plus ou moins bien passé. C'était perçu par plusieurs comme maladroit dans le contexte présent. Lui-même l'a senti. Et donc, la semaine passée, après une période des questions, avait dû faire un message, avait reviré en humour le fait qu'il avait quitté en vitesse, en claquant à la porte une commission parlementaire, parce que, il était pas de bonne humeur des réponses de M. Legault. Et là, aujourd'hui, ça se récupérait pas par l'humour. Là. C'était vraiment un plat message d'excuses, là, complet, où il s'excusait d'avoir fait ça, manque de sensibilité. Donc, s'excusait de ce geste qu'il disait, puis j'en suis convaincu, là, sans malice à prime abord. Mais c'est comme... C'est le une par semaine. Puis, question, est-ce qu'on est trop confiant? T'sais, c'est un peu... J'ai souvent utilisé en politique l'image du ski nautique. Parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de ski nautique. Je suis pas méga sportif, mais j'ai fait une couple de fois dans ma vie. Puis franchement, j'ai réalisé, tu sais, quand tu pensais que c'était bien difficile, c'est pas si difficile que ça. Tu sais, le bateau de tir, pour te mener les skis, ça lève, tu sors de l'eau. Puis ça va bien. Hey, tu portes sur l'eau, là. La monnaie, tu te prends quasiment pour Jésus-Christ qui marchait sur l'eau. Tu flottes sur l'eau. Puis là, le bateau fait un rond. Mais là, c'est quand tu te penses bon. Quand tu repasses devant le chalet ou devant le quai, là, tu repasses, là, tes chums sont sur le quai, puis t'es debout, c'est ski. Et là, dans ta tête, tu dis, regardez-moi bien aller. C'est ce moment-là que les skis te passent par-dessus la tête. Et il y a ce risque-là en politique, au moment où tu dis, là, tout va bien, je suis bon, je marche sur l'eau, que tu ramollis les bras, tu relâches un peu, tu gardes pas les skis égales, puis que les skis te passent par-dessus la tête. On est loin de ça dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon. Les sondages d'hier démontrent encore qu'il est bon premier, loin devant chez les francophones. C'est juste une couple de petits signaux, là. Si j'étais dans son entourage, je jouerais un peu plus la prudence.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Du printemps aujourd'hui, oui, sorti du printemps, sur le thème du partage de la route, parce qu'on est à cette période de l'année où, les piétons, ok, il y en a tout l'hiver, mais il y en a plus l'été, plus de gens qui reprennent la route, souvent même des gens plus âgés vont l'hiver rester plus en cabanée, vont sortir plus lorsque les beaux jours arrivent. Même chose pour les vélos, il y en a quelques-uns maintenant qui en font l'hiver, mais il y en a beaucoup plus l'été. Alors, partager la route, là, c'était le thème de cette conférence de presse, ça a eu lieu ce matin à Laval. Avec moi pour en parler, le président de Vélo Québec, Jean-François Rault, bonjour.
Bonjour.
Et Sandrine Cabana-Degagné, la directrice générale de Piéton Québec. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oui, c'est le thème du moment, le partage de la route.
Oui, en fait, c'est une opération nationale concertée là, par tous les services de police au Québec, coordonnée par l'Association des directeurs de police du Québec. Puis, en fait, nous, on était là pour appuyer les messages qui sont ressortis là, de la part de l'Association et des services de police.
C'est quoi les messages particuliers cette année 2024, les choses auxquelles on fait particulièrement attention?
Ben, nous, on était très contents d'être là parce que la sécurité routière, c'est de plus en plus populaire. C'est un sujet, c'est un enjeu d'actualité. Cette année, les directeurs de police ont choisi de mettre de l'avant le principe de prudence. C'est un principe qui est dans le code de sécurité routière qui veut dire que le plus gros doit faire attention au plus petit, en fait. Puis, donc, plus on est gros, plus on est rapide, bien, on a des responsabilités qui sont plus grandes. Puis moi, bien entendu, chez Vélo Québec, on discute avec les cyclistes, puis ça s'applique aussi aux cyclistes par rapport aux piétons. On sait qu'au Québec, là, on a la difficulté à respecter la priorité piétonne. Donc ça va être un message très important là, dans cette campagne-là.
Ouais. C'est sûr que parmi les plus gros, je regarde beaucoup d'accidents, entre autres avec les piétons. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent les gros véhicules, là, les camions, les autobus de ville, l'angle mort, surtout pour les gens qui marchent lentement, le fameux angle mort de ces gros véhicules.
Ben, on sait que les camions lourds sont effectivement surreprésentés dans les décès chez les piétons.
Les autobus de ville aussi, non? Il me semble qu'il y en a souvent quand même.
Beaucoup moins. Les autobus de ville ont quand même une meilleure vision directe, c'est-à-dire que le conducteur va beaucoup mieux voir les usagers autour de par le design du véhicule, donc des fenêtres plus grandes, une porte aussi sur le côté, des plus petits piliers de pare-brise. Donc, c'est quand même des véhicules qui sont bien conçus pour circuler en milieu urbain, bien cohabiter avec des usagers. Il y en a parfois des collisions, mais c'est quand même, ils sont pas surreprésentés, okay. Alors qu'ils sont très présents en milieu urbain. Et c'est un peu justement, on a un travail à faire sur le design des autres types de véhicules lourds qui circulent
mais
en ville.
Est-ce que la technologie peut pas aider aussi? Détecteur, meilleur miroir, parce que quand même la technologie aujourd'hui peut aider les véhicules au-delà. Parce que ça reste un être humain là, qui conduit, peut être fatigué, peut être distrait, peut avoir quelque chose qui le distrait, un danger à gauche pendant qu'il y a un piéton à droite, il regarde pas du bon côté.
Ouais, tout à fait. On sait que dans les études là, sur la vision directe montrent que justement c'est mieux quand le conducteur peut voir directement son environnement. Donc justement un camion qui va avoir un nez long à l'avant, ben va moins voir les usagers sur la route. Puis même si on ajoute des technologies, c'est moins efficace que de voir directement les usagers, comme par exemple dans les camions qui ont des nez plats. Fait que ça, c'est un aspect, effectivement, le design du véhicule, la technologie, mais il y a aussi le design des aménagements puis routiers qui peuvent avoir un impact là, pour avoir une meilleure vision, visibilité réciproque, puis aussi avoir des vitesses plus lentes en milieu urbanisé où on a une cohabitation avec les différents usagers qui va permettre de réagir à temps, puis aussi de réduire les conséquences d'une collision.
Dans le cas des cyclistes, c'est la cohabitation, c'est aussi la prudence des cyclistes eux-mêmes, là.
Ben certainement dans le fond les données nous disent là, c'est que si on veut protéger les cyclistes, il y a deux choses à faire. Premièrement, on peut les séparer de la circulation en construisant des pistes séparées. Puis deuxièmement, en fait, il y a la vitesse. Si on réduit la vitesse d'une route, ben on va réduire là, les impacts là, d'une possible collision. Après, ce qu'on se rend compte dans les données, c'est que les bons aménagements amènent les bons comportements. Fait que ça, c'est vrai pour les cyclistes, mais c'est aussi vrai pour les automobilistes. Si on conçoit une route où c'est très facile de rouler à 90, ben la route va nous amener à rouler à cette vitesse-là en voiture. Mais c'est un peu la même chose en vélo. Si les pistes cyclables sont mal conçues, s'il y a des tours, s'il y a des choses à faire, mais là, on va avoir peut-être tendance à avoir plus de mauvais comportements.
Vous avez quoi comme statistique, mettons, dans les 5 dernières années, sur toutes les statistiques de l'humanité à peu près, on dit toujours les années de pandémie. Ouais, ouais. Les années de pandémie ont été tellement spéciales d'un comportement qui sont difficiles à comparer, mais quand même, les 5 dernières années, accidents de vélo, décès, blessés graves, il y en a moins, il y en a plus.
Ben, moi, je vous amènerais sur les 3 dernières décennies, en fait, parce qu'en sécurité routière, il faut avoir un regard un peu
donc
plus long.
Donc, sur 30 ans. Là.
Ouais, sur 30 ans. Puis, sur 30 ans, ce qu'on voit, c'est une tendance vraiment à la baisse, en fait. Nous, on s'explique principalement par le développement des aménagements cyclables. Pendant la pandémie, il y a eu des années qui ont été assez difficiles pour les cyclistes, mais encore plus difficiles pour les piétons. Mais là, cette année, dans la dernière année, là, ce qu'on a comme chiffre préliminaire au Québec, c'était 9 décès de cyclistes. Donc là, on a une tendance vraiment à la baisse. Puis ça, cette tendance à la baisse-là, elle est dans un contexte où la pratique est en augmentation. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo. C'est
donc,
moins risqué qu'avant.
Quand vous dites c'est à la baisse, c'est même pas, mettons, par 10 000 utilisateurs ou sur un ratio. C'est malgré qu'il y a plus d'utilisateurs, c'est à la baisse au net, là.
Exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Quand même. C'est quoi les types d'accidents en vélo? Est-ce qu'il y en a, mettons, vous dites, on a eu 9 décès, ou on pourrait inclure les blessés graves, là. Oui. Est-ce qu'il y a un type d'accident ou un type de comportement ou d'imprudence d'automobiliste qui ressort du lot?
Ben, si on regarde là, les chiffres de 2023 pour la ville de Montréal, c'est 23 collisions avec blessés graves de cyclistes. Puis si on regarde là, la responsabilité, le SPVM a identifié 60%, c'était le conducteur du véhicule qui avait un comportement qui a été une cause principale dans l'accident. Puis pour les cyclistes, c'était 40%. Fait qu'on voit que la responsabilité est partagée. Il y a aussi une surreprésentation là, des camions ben, des camions lourds. Puis là-dessus, ma collègue Sandrine l'a bien expliqué. Là, c'est les normes des camions, ça c'est le gouvernement fédéral, les règlements au Québec, puis les aménagements dans les municipalités.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, je sais que c'est un drôle de mot, mais est-ce qu'il n'y a pas, sachant ça, un besoin des cyclistes d'avoir un petit peu plus peur? Puis pas que je dis qu'il faut leur faire peur, mais de dire, je vois un camion, tu sais, mettons, moi là, mettons, quand je suis piéton, là, j'ai peur des gros véhicules. Est-ce qu'il me, tu sais, je viens obsédé, il me voit dessus, tu sais, dans d'autres circonstances, je vais avoir un contact visuel, tu sais, je marche toujours là, ici à Montréal. Mais mettons que j'ai un gros camion, je dis, OK, je me dis, lui, il me voit pas, là. Ouais. Tu sais, est-ce que les cyclistes se posent ces bonnes questions-là, de dire, OK, tel type de camion, à eux autres, sont à faire attention? Parce que des fois, on regarde aller les cyclistes, puis, bon, ils passent ses rouges, ils passent ses stops, ils regardent un peu, bon, ils ont l'air des cyclistes expérimentés, je suis sûr qu'ils me diraient, hey, je sais ce que je fais. Mais est-ce qu'ils ont cette peur de dire, OK, là, je suis correct, mais tel type de véhicule, lui, pourrait être un danger pour moi.
Oui, bien, en fait, c'est intéressant, votre remarque, parce que vous décrivez des comportements qui sont téméraires, puis souvent, ces comportements téméraires-là vont avoir lieu dans des environnements téméraires, en fait. Donc, la meilleure façon d'amener des bons comportements, c'est construire des pistes cyclables qui sont sécuritaires. Puis là, quand on commence ça, on attire une nouvelle démographie. Il y a plus de gens qui peuvent faire de vélo, plus de femmes, plus de familles, plus d'enfants. Puis là, on se rend compte que les comportements vont s'améliorer, en fait. Après, sur la notion du risque, tu sais, par rapport au
risque, cycliste... risque perçu du cycliste.
Oui, bien, le risque personnel, tu sais, c'est certain que, en fait, les cyclistes ont une certaine responsabilité, puis nous, les cyclistes par rapport aux piétons, c'est la chose pour nous où ça devrait être tolérance zéro, là, le respect de la priorité piétonne, que ce soit sur les rues piétonnes, sur les traverses piétonnes ou sur les sentiers polyvalents. Quand on est un cycliste, on devrait tout faire pour que les piétons se sentent en sécurité.
Dès qu'on utilise l'expression priorité piétonne, là, amener ce sujet-là sur la table où il y a une douzaine de personnes au Québec, ils vont tout de suite vous faire une comparaison internationale, là, t'sais, avec le Canada anglais ou avec même avec le Royaume-Uni ou des pays où, écoute, c'est pas compliqué, un piéton fait un pas en descendant du trottoir, les autos, les quatre roues collent, les quatre roues barres. Ici au Québec, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas. Bon, là, je pense que c'est quand même un peu mieux là où il y a des lignes dessinées. Mais de façon générale, on passe. Le piéton, il passera quand il pourra.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un gros travail à faire pour changer la culture autour de la priorité piétonne au Québec.
Et là-dessus, au Canada, juste au Canada, pas besoin d'aller loin. Au Canada anglais, il y a une approche totalement différente. Là.
Dès qu'on traverse la frontière en Ontario au Nouveau-Brunswick, on voit que justement, on va céder le passage. Puis d'ailleurs, c'est vrai au passage piéton, mais c'est vrai aussi aux lumières. Il y a des études qui ont démontré.
Mais c'est vrai même s'il n'y a pas de ligne. Là.
C'est ça, exactement.
Je veux dire, une personne va débarquer de son auto, il y a un commerce l'autre bord de la rue, tu vois les autos s'arrêter. Ouais. Là. On dit, faut le laisser passer ici.
Au Québec, dans le fond, ça va être le piéton qui va faire la manœuvre d'évitement en général, alors que dans le reste du Canada, ça va être le conducteur qui va faire la manœuvre d'évitement. Donc, on a un changement de culture à faire à ce niveau-là. Puis, je pense que avec le nouveau le projet de loi 48 qui vient modifier le code de la sécurité routière, on a quand même augmenter les sanctions par rapport au non-respect du passage piéton. Puis j'espère que ça va amener une conversation sur ce sujet-là, puis qu'on va avoir une prise de conscience. Là, quand on est derrière le volant, on doit anticiper la présence de piétons, puis céder leur céder le passage.
Bien, on va se souhaiter et vous souhaiter une bonne saison de cohabitation sur les routes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à vous.
Fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon, là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, pis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Bonjour, Marie.
Salut, Mario.
Ah, bizarre affaire à l'Assemblée nationale. La semaine passée, Paul Saint-Pierre Plamondon avait dû, bon, virer en humour, tourner en humour, le fait qu'il avait sorti un peu vite d'une commission parlementaire. Il était pas satisfait des réponses du premier ministre, mais, tu sais, ça avait amené un peu son tempérament, ce qui était soupe au lait. Aujourd'hui, François Legault, il lance une espèce de blague, là, est-ce qu'il pourrait devenir membre de la CAQ? Et là, il mime de s'ouvrir les veines, là, dû au sortir de la période de questions, s'excuse. Cette fois-ci, là, ça se récupérait pas par l'humour. C'était vraiment des excuses en bonne et due forme. C'est comme si tout ça est pas vraiment grave, mais on se dit, ben là, il pourra pas une fois par semaine être obligé de se reprendre, là.
Ben, ce qu'on voit, c'est que ça devient moins facile, hein, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, là. T'sais, il glisse un peu plus facilement. Il se fait attaquer aussi davantage par François Legault, qui, tu sais, on sentait que François Legault, au départ, il était un peu déstabilisé par ce nouvel adversaire qui avait la cote et tout. Là, il devient un petit peu plus efficace, François Legault, pour l'attaquer.
Mais là, aujourd'hui, personne, en tout respect, aujourd'hui, j'ai l'impression que personne l'attaquait. C'était même pas une période de questions vraiment corsée ou émotive. C'était un petit peu arrivé. J'ai trouvé que c'était arrivé de nulle part, ce geste-là. C'est, tu sais, au tennis, on dirait, là, t'as une balle facile, puis une faute non provoquée, là, tu l'envoies dans le filet sans raison. Là, ça arrive au meilleur, là, tu sais, mais...
Ouais, tu sais ce qu'il lui a dit François Legault dans le fond, parce qu'il était dans un débat par rapport au sondage Léger ce matin sur tu sais, puis c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui le questionnait beaucoup là-dessus sur bon, il y a presque une majorité de francophones qui pensent que de Québécois que le français survivra pas si le Québec reste dans le Canada et tout, et François Legault finalement lui a répondu, ben si ça marche pas votre référendum, allez-vous vous joindre à la CAQ? Et il le fait finalement le geste en disant, ben tu sais, je préfère m'ouvrir la main. Mais tu dis, il a pas répondu par humour, mais en même temps, tu sais, dans le il a fait un tweet pour s'excuser, mais il a dit qu'il avait voulu faire une blague, là. En tout cas, moi je sais que là, j'entendais plusieurs analystes dire, ouais, c'est pas si grave que ça, là, faut pas, tu sais, c'est une tempête, ben, dans
c'est
un verre
bizarre
tôt. Ben je ouais, bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, inapproprié,
ouais.
Même. Puis la réponse de François Legault, moi, m'a pas plu non plus, Mario, parce que.
Non, parce qu'il a comme repris le geste un peu, mais en soulignant qu'il l'avait fait, mais il l'a fait.
Un peu. Il l'a repris parce que Paul Saint-Pierre Plamondon était en dehors des caméras quand ça s'est vu. Donc, on l'a pas vraiment entendu et on l'a pas vu non plus. Et François Legault, il a dit, ah, ben, vous voyez, madame la présidente, le chef de la troisième opposition, a dit qu'il va s'ouvrir les veines et il fait le geste à la caméra. François Legault fait le geste à la caméra puis finit en disant, en tout cas, ça, c'est son problème. Tu sais? Puis je me disais, moi, ça m'a rendu extrêmement mal à l'aise, cet échange-là, Mario, parce que on sait à quel point, puis encore là, je veux pas surenchérir sur cette question-là, mais tu sais, on sait à quel point on est une des sociétés au monde qui a le plus haut taux de suicide. C'est comme si, puis là, on dit, ah, ben oui, mais c'est une expression courante, s'ouvrir les veines, mais c'est comme s'il avait dit, ah, je vais me mettre une balle dans la tête ou je vais me pendre. Tu sais, il me semble qu'il y a des mots puis il y a des expressions qui s'utilisent pas quand t'as une voix, quand t'as un micro, quand tu es devant caméra. Et ça, ça en fait partie. Donc, je pense pas que c'était plus habile de la part du premier ministre de reprendre ni le geste, ni le propos non plus. Mais venant de Paul Saint-Pierre Plamondon, effectivement, c'était plus que bizarre. Est-ce que là, ça vient renforcer le petit côté soupe au lait et très réactionnaire? Ouais. Et en tout cas, ben, c'est pas terrible.
J'entends toutes sortes d'affaires à l'Assemblée nationale, mais pour les péquistes, là, peut-être pas tous, mais c'est comme si on entend parler un peu de changement d'attitude. Quand le PQ était à 10%, là, t'sais, il était fin avec tout le monde, il travaillait fort, il donnait était disponible des entrevues à tous les médias. T'sais, il avait comme une attitude de, ben, gars, on croit à nos affaires, puis il faut qu'on se batte. Puis c'était éminemment sympathique. Puis je sais, il faut que tu t'adaptes quand tu deviens premier, puis tu peux pas répondre à tout, mais t'entends beaucoup ça, là. T'sais, ben là, t'sais, changement d'attitude du PQ, là. Maintenant qu'ils sont premiers, ben là, tu sais, ça se prend plus au sérieux, ça se croit. Marc, ils sont pas dans le trou.
On le dit, Mario. J'ai croisé d'anciens collègues de Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, dans les derniers jours, tu sais, puis justement, dans la foulée de ces commentaires-là qui avaient été faits sur lui, qu'il était soupe au lait. Puis je trouvais que ça avait été un petit peu monté en épingle, parce que dans l'échange qu'il avait eu avec François Legault, j'avais pas trouvé, moi, qu'il avait été particulièrement soupe au lait, puis il avait quitté une commission parlementaire, comme ça se fait régulièrement, une fois qu'on a fini son intervention, puis il restait 40 secondes. Puis je trouvais qu'on avait comme un peu exagéré par rapport à la réaction que j'ai vue, mais des anciens collègues à lui et des gens qui l'ont côtoyé de très près me disent non, il est soupe au lait. Il est très soupe au lait, apparemment.
Ah ouais?
C'est ce qu'on me dit, des sources que j'aurais tendance à qualifier de crédibles, où on me dit pas Saint-Pierre Plamondon, donc c'est a travaillé beaucoup son image dans les premiers mois. Là. Est-ce que c'est le naturel? On me dit que c'est le naturel qui revient au galop. Donc, le naturel de pas très bien tolérer la critique, critiquer les médias, t'as vu, là, ça fait 2-3 fois qu'on le voit réagir aussi en disant, ben là, j'ai pas aimé que les médias, tu sais, quand il avait eu des larmes, entre autres, suite aux menaces qu'il avait eues auprès de lui et de sa famille, il avait dit, il était fâché, dans le fond, que les médias aient montré des images de lui. Il est intervenu à 2-3 reprises et on me dit effectivement que c'est quelque chose qu'il fait de demander un changement de titre dans un article, qu'il est pas content de telle citation qui a été mise, mais que ça, c'est quelque chose qui a toujours été là et qu'effectivement, il est plutôt soupe au lait. Donc, c'est peut-être le naturel, ouais, là, qu'on commence à avoir, parce qu'il est plus exposé aussi et il est plus attaqué.
C'est sûr. Ouais. Non. Puis, d'ailleurs, on va enchaîner avec notre prochain sujet. Tu veux me dire un mot sur ce sondage léger où le PQ est toujours, entre autres chez les francophones, là, nettement au premier rang, loin au premier rang.
Ben oui, tu sais, si on le résume, là, dans le fond, ce sondage-là, ça va bien pour le PQ, ça va mal pour la CAQ, QS est relativement stable, puis le PLQ continue d'être quelque part dans les limbes, sans chef, tu sais. C'est, tu sais, je voyais aujourd'hui, bon, oui, la CAQ a freiné sa chute, c'est un sondage, hein, donc il va falloir voir si c'est une tendance, est-ce qu'au prochain sondage, ils seront encore stables, est-ce qu'ils vont remonter? Ce que je trouvais particulier, deux choses là-dedans, parce que, tu sais, on essaie toujours d'interpréter qu'est-ce qui fait justement que la CAQ a freiné cette chute vertigineuse là, dans laquelle qu'ils avaient amorcé depuis au moins 1 an et demi. Est-ce que c'est caché ce François Legault que je ne saurais voir? Est-ce que ça a fonctionné, cette espèce de stratégie
de ça?
Il y a un peu de ça. Puis, tu sais, c'est un premier ministre qui a été extrêmement exposé aussi pendant la pandémie, entre autres. Puis, on le disait, hein, c'est peut-être un risque d'avoir eu des conférences de presse tous les jours à 1 heure, là, l'espèce de grande messe. Il a été très, très surexposé. Est-ce qu'il y avait cette fatigue-là? Mais ce qui est particulier, c'est que le taux de satisfaction envers le gouvernement remonte dans un contexte où c'est un gouvernement qui vient de nous présenter un budget catastrophique avec un déficit de 11 milliards. Puis, je me disais, comment ça se fait que cet élément-là aurait dû les amener à la baisse et finalement, on se retrouve avec un taux de satisfaction envers le gouvernement et même la cote de popularité de François Legault qui augmente. Donc, je me dis, moi, prudence, tu sais, attendons le prochain sondage pour voir si cette tendance-là se maintient ou pas.
Marie, merci beaucoup. À demain.
À demain, Marie.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
C'est la presse ce matin qui nous présente cette entrevue avec une vice-présidente de la SAQ qui dit qu'il y a comme un ménage à faire, ni plus ni moins, dans les produits québécois, les alcools, les spiritueux québécois, distribués à la SAQ. Bon, a dit Sandrine Bourlet, vice-présidente de commercialisation de la SAQ, dit avoir un deuxième gin de saveur de citron, ce n'est peut-être plus nécessaire. Bon, on dit libérer de l'espace sur les tablettes pour les bons joueurs. Donc, enlever des joueurs qui vendent pas assez, qui ont pas de succès. Bon, faut toujours voir. Moi, de mon point de vue, je lisais ça puis je me disais, OK, mais tu vas carrément avoir une poignée de fonctionnaires qui vont avoir un droit de vie ou de mort sur des micros distilleries, là, qui vont dire, bon, ben là, tu sais, j'en ai une. Si j'enlève ces produits de ces tablettes, fini, là. Je les fais disparaître du marché, là. Ils vont perdre leur place, ces tablettes à SAQ, diminuer leur vente d'un fort pourcentage. On peut même imaginer que quand la banque va savoir que qu'il a prêté là, pour les équipements de production, la banque va dire, OK, là, t'es même plus ces tablettes de la SAQ, je rappelle ta marge. Pascale Vaillancourt, créatrice de spiritueux authentiques et copropriétaire de Hubal Distillerie, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que chez Hubal de Distillerie, vous voyez certains de vos produits en danger de cette réforme?
En fait, C'est sûr que nous, on a commencé il y a 5 ans, on a une certaine connaissance du marché, on a aussi nos produits qui se retrouvent sur les tablettes, on est quand même assez connus. C'est sûr que c'est difficile à dire aujourd'hui parce que la SAQ a pas établi tous les paramètres et les règles qu'elle va appliquer, mais c'est sûr que quand on entend ça, ça devient un peu stressant. Par contre, la SAQ, la réalité, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Elle n'a pas le choix de faire
c'est
ça. Il y a vraiment énormément de produits. Ça, c'est peut-être un effet du fait que ils diminuent l'espace tablette. Donc, les distilleries, pour avoir de l'espace tablette, vont rajouter des produits. Ils ressortent des produits. Puis là, ben c'est le goût du jour. Puis là, à un moment donné, ben on se ramasse dans une espèce de melting pot où il y a énormément de produits sur les tablettes de la SEQ. Ceci étant dit, elle doit faire quelque chose. Mais on s'entend que le problème, en fait, il est peut-être pas à la SAQ, mais peut-être que le problème est dans tout ce qu'on a comme lois et règlements qui sont peut-être désuets actuellement pour le marché qui a explosé des distilleries. Puis des fois, j'entends les gens dire « Ah, il y a trop de distilleries au Québec, il y a beaucoup de produits, nanana », mais on pourrait faire des affaires autrement. S'il y avait des canaux de distribution différents, si les lois étaient assouplies, on s'entend que c'est des lois qui ont 100 ans, là. Donc, il y a des choses qui doivent être revisées pour rendre ça dans les années 2000.
Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis un consommateur. Oui. Je suis quand même un gros acheteur. Puis là, tu sais, au début, là, il y a 7-8 ans, je m'étais fait d'une discipline de tous les nouveaux gins québécois. Faut que je les achète, faut que je les goûte une fois, faut que j'encourage tout le monde. Mais là, à un moment donné, je serais chaud 24 heures sur 24. Il y en a tellement, ça n'a plus de bon sens, là. Fait que ça, je le vois, je le constate. C'est juste que, moi, mon malaise, c'est de dire, OK, mais est-ce qu'il y a 3 fonctionnaires qui vont s'asseoir ensemble? Puis ils vont tuer 15 commerces. Tu sais, c'est des gens qui travaillent depuis 2 ans, 3 ans, ont investi, ont mis leurs économies, une partie de leur réa, partir une micro-distillerie. Puis à un moment donné, dans leur bureau, des gens vont dire, ben eux, là, gardent leurs produits pas terribles, tu sais, bye. Puis là, ben les autres sont finis, sont morts. C'est là que moi j'ai mon malaise.
Ben oui, c'est malaisant, effectivement, mais en fait, vous savez que la loi sur la Société des alcools oblige la Société des alcools, dans le fond, à distribuer les produits des distilleries qui ont un permis de distillateur industriel. C'est le permis qu'on a. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, on peut pas dire à une distillerie, ben, t'as eu ton permis, tu développes des produits, ça fait un an, ça s'est pas vendu, parce que toi, t'es en compétition avec les plus grands de ce monde qui investissent des dizaines de millions de dollars en promotion. C'est sûr que c'est malaisant, mais c'est sûr que c'est fait en association avec l'Union des micro-distilleries du Québec. Donc, j'ose croire que ça sera fait de la bonne façon. Mais on peut pas s'empêcher, parce que l'état actuel des choses dans les distilleries, dans le milieu, dans l'industrie des distilleries au Québec, il y a des distilleries qui ont fermé depuis le début de l'année.
Oui, c'est rare. Il y en a fermé quelques-unes dans l'est du Québec, entre autres. Là, ça a été difficile.
Oui. Puis en fait, chaque distillerie qui ferme, c'est très triste parce que c'est tout le terroir, c'est tout des produits innovants qui ferment. Puis c'est sûr que ça va impacter les artisans, ceux qui partent vraiment des aromates qu'ils vont aller chercher dans l'autocueillette, qu'ils vont mettre en valeur les fruits de leur région, qu'ils vont faire partir à partir des matières agricoles qu'ils cultivent. Fait que c'est sûr que ça, c'est un enjeu actuellement. Puis, il faut qu'il y ait plus de place pour qu'on puisse survivre. T'sais, en fait, on demande pas grand-chose, on demande juste de vivre. Fait que faut rentabiliser des industries. Fait que c'est sûr que cette loi-là, cette gestion par catégorie-là de la SAQ est très épeurante, surtout si elle n'est pas associée avec d'autres éléments qui vont venir aider ces industries-là. Donc, il y a la vente sur place, la vente au resto, aux
épiceries. Mais la vente en ligne?
La vente en ligne, c'est interdit.
Mais c'est ça que j'allais dire. Mettons, moi, j'ai un produit que je trouve intéressant. La SAQ décide, bon, tu sais, moi, je le déclasse. Il s'en vend pas assez. On déclasse ça. Ben là, vous allez dire, je peux aller l'acheter sur place, mais si c'est à 400 km de chez nous, là, je peux bien le trouver le fun, le gin, mais je serais pas 400 km pour aller acheter une bouteille. Donc, je peux pas le commander en ligne. Donc, c'est ça. C'est là que je dis qu'on condamne des gens. On les condamne. Ils peuvent pas vendre au restaurant, ils peuvent pas vendre en ligne. Fait que si t'habites dans une région rurale où la vente à ton établissement, il passera jamais beaucoup de monde, ben, t'es comme condamné un peu, hein?
Ben, en fait, oui, mais la SAQ cherche des solutions. Pour la vente en ligne, ils nous ont proposé de garder certains des produits, mais on sait pas comment tout ça va s'orchestrer, honnêtement. On sait des brides, on sait qu'ils veulent travailler avec l'industrie, mais tu sais, jusqu'où ils vont aller versus jusqu'où on peut aller. Tu sais, moi, j'ai un permis de distillateur industriel. Mon seul client, c'est la SAQ. Donc, on s'entend qu'à quelque part, je veux dire, si la SAQ me dit, ben, je prends plus tes produits, ben, j'ai un enjeu majeur. Donc, il va falloir réfléchir à ça, mais je pense que c'est une réflexion de société qu'on doit avoir parce qu'il y a quelques, tu sais, je veux dire, ça fait des années que notre association, l'Union, puis je parle pas en leur nom, là, je parle en mon nom, puis de ce que j'ai vu de leur travail. En fait, ça fait des années qu'ils proposent des solutions différentes, qu'on propose de reviser les lois, mais en fait, il faut que toutes les parties prenantes s'assoient ensemble. Et actuellement, personne ne le fait.
Je comprends. Quand vous dites, moi, là, toute ma production s'en va à la SAQ, mettons, vous êtes dans combien de succursales? Avez-vous un portrait de ça? Parce que, mettons, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Je regardais vos produits sur votre site Internet avant de faire l'entrevue, puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la mienne, parce que je les connais, les produits, je les regarde, je regarde toujours. Mais c'est ça, c'est parce que être à la SAQ, c'est pas nécessairement être dans chaque succursale, hein?
Non, en fait, quand la SAQ accepte un produit, ben nous, on a un travail, en fait, d'aller voir chacune des succursales pour vendre nos produits, pour être distribués dans ces succursales-là. Puis, ben c'est l'espace tablette qu'il y a dans cette succursale-là. Souvent, les directeurs vont nous dire, ben là, je vais laisser la chance à un autre, je vais te mettre toi, puis après ça, je vais voir si ça se vend bien. On a la chance de mettre beaucoup de sous en promo, en publicité, nous-mêmes. Donc, c'est sûr que ça fait jouer, ça joue sur les ventes. Mais on s'entend, notre force de vente, là, elle peut pas faire 400 SAQ à tous les mois. On s'entend, là. Fait que, je veux dire, à quelque part, il y a ça aussi, c'est un effort de tous les jours. On a une super belle équipe, on a des gens qui croient en nos produits, les gens viennent visiter. Tu sais, je veux dire, on a tout pour faire un succès. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir une bonne distribution. Mais ce que je vous dirais, là, c'est que je pense que c'est plus s'asseoir avec les parties prenantes, les gouvernements en place, je veux dire, la RACJ, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la SAQ. Je pense qu'il y a une solution à trouver ensemble pour faire en sorte qu'on en arrive dans les années 2000 avec les lois actuelles.
Bien, on vous souhaite la meilleure des chances, Pascal Vaillancourt. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
On couvre pas mal tous les portraits de l'actualité, tous les sujets qui font jaser aujourd'hui. Et s'il y a une entrevue que vous devez absolument écouter, c'est celle de Janie Barré. Janie, elle est atteinte d'une maladie génétique rare, mais ça ne l'empêche pas du tout de réaliser tout plein d'exploits. Elle vient de participer au Marathon de Londres et elle a réalisé le marathon le plus rapide de l'histoire en fauteuil roulant féminin. Pas en bolide de course à trois roues, ou que ça fly, là. Non, non, avec son fauteuil roulant. Elle dit, j'allais tellement vite que les roues, là, ça brassait comme ça, là, un peu comme un panier d'épicerie. Là. Donc, c'est pour vous dire, elle est tellement inspirante. Elle a une fougue, là. Pour vrai, je la salue. Avec ce marathon-là, elle est entrée dans le livre des records Guinness. Pour vrai, s'il y a une entrevue que vous devez écouter aujourd'hui, c'est celle-là. Vous allez la retrouver, entre autres, dans l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel. Hier, dans l'épisode de Mario, on a parlé de la réduflation, donc des entreprises qui diminuent les quantités en laissant bien souvent le prix tel quel. Il y a un auditeur qui a pris le temps de nous écrire. Il s'appelle Georges, puis il nous dit plusieurs fois ou à chaque fois même qu'il est question de réduflation dans les médias, la conséquence sur la pollution est ignorée. Si la taille d'un contenant est réduite, il est évident que le nombre de contenants finit par être plus grand car le consommateur doit en acheter plus souvent et donc plus de pollution. Puis ça, c'est sans compter les incidences négatives sur le coût de production, le transport, la manutention. Puis tu sais, Georges nous confie que lui, pour sa part, il refuse d'acheter des pots de yogourt de 650 grammes. Il dit, j'achète plutôt les 750, quelle que soit la marque. Puis tu sais, il dit des fois, si je peux acheter du 1000 grammes, il dit c'est rare par contre, mais c'est encore mieux. Puis c'est vrai, je trouve qu'on...
Pour réduire son nombre de contenants, oui.
Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est vrai que c'est un angle qui n'est pas souvent abordé.
C'est pas une réponse à ce qui nous amène. C'est un bon point qui nous amène. C'est plus un constat de dire, la réduflation, ça choque les gens. OK. Mais il faut que les gens acceptent qu'ils ont été, pas individuellement, mais comme population étudiée, là. Les gens qui décident, OK, là, notre flacon ou notre bouteille là, est à 6,59$. Si on la monte à 7, là, on perd le client. À 7 piastres, il décroche. Fait qu'on est mieux d'en mettre 30 millilitres de moins dans chaque bouteille. Le client, il va chialer. Il va l'acheter pareil. Ou il s'en rendra pas compte. Mais je veux dire, c'est savamment et scientifiquement étudié. Les consommateurs.
À la lettre.
Oui, les consommateurs ont été scrutés.
Tout
les compagnies. Les compagnies font pas ça à l'aveuglette. Oh, on va essayer quelque chose, là. Et donc, dites-vous comme consommateur que, encore là, pas individuellement, chaque consommateur peut être différent, mais comme groupe, comme collectivité de consommateurs, s'il y a de la réduflation, c'est parce que vous êtes moins sensible à une baisse de quantité qu'à une hausse de prix.
Oui, mais c'est en même temps, c'est comme on est un peu perdant dans tout aussi, parce que oui, la pollution, mais là, ça nous coûte plus cher, on en a moins, fait que finalement, au final...
C'est
le même que ça finit, mais je trouvais ça vraiment intéressant quand même, votre point, Georges. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire, puis vous pouvez le faire sur tous les sujets qui vous interpellent avec l'adresse studio@commercialcube.radio. Puis je termine avec le moment mignon de votre journée. Le moment, là, qui des photos qui vont vous faire dire... Oh, c'est pas trop cute. C'est un... je propose qu'on montre les images à l'écran. C'est un Golden Retriever qui a suivi le photographe de Google Maps.
Oh, il a suivi la petite auto avec l'appareil photo tournant,
ben,
là.
Ben là, vois-tu, là, je pense qu'on se déplaçait probablement à pied parce qu'on est dans des sentiers.
Ouais, on est dans des sentiers de campagne,
on
là,
on est dans des parcs, toutes sortes de choses comme ça. Alors, le Golden a suivi le photographe puis on le retrouve dans plus de 1000 photos. Là, c'est sur une île en Corée du Sud, mais tu sais... Un Golden Retriever.
Non, c'est un Golden Retriever coréen?
Oui. Oui.
Ben oui.
Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ben oui.
Il y a des Golden là-bas aussi. Faudrait qu'il y ait des Golden partout.
Ah! Oh.
Oh, non, mais c'est tellement attachant. Imagine, j'ai juste envie d'aller sur Google Maps pour le voir dans les 1000 photos. Alors, voilà, c'était le moment cute de la journée.
Merci.
Merci.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Quand on est en haut des sondages, ça vient avec beaucoup plus de gens qui te scrutent à la loupe, Mario.
Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu vas me parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un peu... Je dirais en langage de tennis, ils appellent ça, c'est une faute non provoquée, les analystes de tennis. C'est-à-dire que c'est pas l'adversaire, t'as pas envoyé un smash ou un coup. T'as juste une balle au centre du terrain, puis pour une raison, tu l'envoies dans le filet. Ouais. Toi-même, tu comprends pas, voyons pourquoi j'ai envoyé ça dans le filet. Là, tu vois, les joueurs vont être frustrés contre eux-mêmes. J'ai un peu ce sentiment-là aujourd'hui, donc vas-y, mais il s'est mis pied d'un plat.
Pied d'un plat, puis quand même pas à peu près. Là. Se trouve au Salon Bleu, un échange avec le premier ministre François Legault, et là, ben dans l'échange, lui est en train de poser des questions, demande à M. Legault, ben là, est-ce que vous engagez à tenir un référendum sectoriel sur l'immigration si jamais Justin Trudeau refuse vos demandes là, en matière d'immigration? Et là, ben François Legault, un peu picot vif, lui répond et dit, ben regardez, est-ce que M. Paul-Saint-Pierre Plamondon va lui-même, s'il y a un troisième référendum d'indépendance, puis que c'est refusé puis que ça marche pas, est-ce qu'il va revenir dans la CAQ?
Est-ce qu'il va prendre sa carte de membre de la CAQ?
Voilà. Et là, en réponse à tout ça, M. Saint-Pierre Plamondon fait un geste, une expression qui mime, qui singe une expression bien connue quand on est un peu déprimé, tu sais. Ah, ça me donne le goût de m'ouvrir les veines. Tu comprends?
Fait le geste de s'ouvrir les veines.
Mais fait le geste de s'ouvrir les veines comme ça à l'Assemblée nationale, et là, ça passe pas du tout. François Legault reprend ça, l'ordi, dans des images qu'on n'a pas pu voir, là, la caméra était pas braquée à ce moment-là.
Non,
sur
les caméras de l'Assemblée sont toujours uniquement sur la personne qui a la parole. Donc, tu peux pas... C'est pour ça, si vous demandez, on n'a jamais d'image quand il y a... Non, t'as jamais d'image quand il y a d'autres choses qui se passent, quelqu'un qui sort, qui claque la porte. La règle... Maintenant, c'est un petit peu plus souple qu'avant. Des fois, ils vont élargir. On voit la personne qui parle, puis on voit un peu autour. Mais, ou des fois, quand il y a personne à la parole, tu vas voir la plan d'ensemble du Salon Bleu.
Mais dans ce cas-ci.
Mais il n'y a pas de ce qu'on appelle en TV une reaction shot. Tu sais, comme dans un débat des chefs, là, un parle, mais on va mettre la caméra sur l'autre pour voir, là, tu sais, quand il se fait parler dans le casque, comment il, sa réaction. Il n'y a pas ça à l'Assemblée nationale. Donc, c'est que celui qui parle qui a la caméra braquée, ouverte sur lui.
Là. Voilà. Et là, même si on avait pu tourner là, du côté de M. Saint-Pierre-Plamondon en dérision les dernières attaques sur lui la semaine dernière, quand on parlait qu'il était un peu soupe au lait du côté de ses adversaires, ben là, aujourd'hui, c'était pas le ton du tout à adopter. C'est des excuses en règle sincères qui ont été présentées par le chef du Parti québécois.
Il l'a fait sur X, là, tout de suite après la période des questions.
Oui, en disant qu'il avait fait ça de manière spontanée, c'était une boutade, faisait ça sur le ton de l'humour, mais comprend que c'est pas drôle, retire tout de suite ses propos, s'excuse aussi. Parce qu'on on se comprend, l'expression, je veux dire, peut être lancée à tort à travers, mais de faire le signe, c'est quand même le symbole d'un suicide.
C'est ça, le geste de s'ouvrir les veines au Salon Bleu, c'était certainement bizarre, plusieurs ont dit inapproprié, mais moi... T'sais, pris individuellement, bon, la semaine passée, soupe au lait, là, il est parti d'une commission parlementaire, c'était pas vraiment grave en soi. Aujourd'hui, on peut dire, ben, c'est une maladresse. C'est juste que là, faudrait pas qu'à toutes les semaines, il soit obligé, au sortir de la période des questions, d'envoyer un message pour expliquer ou excuser ou justifier. Ça devient problématique pour lui. Puis ça, t'sais, c'est drôle parce que les fameuses distractions que François Legault disait qu'il voulait éviter... Maintenant, c'est un peu comme Paul Saint-Pierre-Plamondon qui va dire dans quelques jours, ben là, moi, faut que j'essaie d'éviter les distractions parce que là, il y a encore un excellent sondage au cours des dernières heures qui le place en premier. Ça a arrêté de monter, mais il reste quand même loin en première position. Sauf que ces éléments-là, à mon avis, commencent à causer de la friture sur les ondes. Puis, soulever un peu la question, là, est-ce que les péquistes sont, vu que ça va bien, est-ce qu'ils sont en train de devenir trop confiants? C'est le genre de questions qu'on va se poser, là.
Actualité.
Toujours à l'Assemblée nationale, le ministre des Services sociaux délégué à la Santé, Lionel Carman, qui a dû réagir aujourd'hui à une enquête qui a été publiée tout d'abord là, dans les pages du quotidien La Presse. Histoire d'horreur, Mario. Là. Franchement, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, histoire d'horreur absolue qui décrit, là, si je le résume rapidement, une maison là, de famille d'accueil de la DPJ qui, depuis là, presque 20 ans, était en train d'accueillir des jeunes et encore des jeunes qu'on envoyait dans cette famille d'accueil-là, qui était considérée comme une ressource excellente là, pour les jeunes qu'on envoyait. Le problème, ben, c'est que dès 2004, il y avait une adolescente qui avait décrié des agressions sexuelles qu'elle avait vécues dans la maison elle-même par les gens de la famille d'accueil et que là, on l'avait pas cru à l'époque, ça a pris jusqu'à...
Mais pas cru au point où c'est elle qui a subi là, immédiatement des sanctions, des conséquences, sont débarqués à l'école, fouillés sa case...
Ouais, parce que quand elle a dénoncé celui qui a l'agresseur en question, le père de la famille, dit tout de suite,
problème de drogue,
problème d'attitude, puis c'est elle qui a été traitée en criminel à l'époque.
Puis je pourrais comprendre qu'à la DPJ, on nous dise, mais là, quand un jeune... Nous signale quelque chose comme ça, on prend pas ça pour du cash tout de suite. Ça, je pourrais le comprendre. Mais qu'on décide, tu sais, qu'on reste prudent, qu'on fasse davantage de vérifications, ce serait normal. Mais qu'on développe aucune prudence, qu'on dise, qu'on accepte tout de suite, là, c'est le jeune qui ment.
Ouais, pis...
C'est un département de protection de la jeunesse, c'est un organisme de protection de la jeunesse. Un jeune te dénonce quelque chose de grave qui pourrait être vrai. Et toi, tu décides sans vérification que c'est faux, tu punis le jeune, puis tu gardes aucune vigie, là, aucun œil particulier à dire « OK, mais là, dans cette famille-là, c'est quoi l'affaire? On est-tu sûr? » Et pendant les deux décennies suivantes, cette maison-là devient ce que la presse décrit ce matin comme une maison de l'horreur. Là.
Ben oui, absolument, parce que c'est pas la seule victime qui s'est manifestée depuis ce temps-là. Là. En 2021, il y a une autre victime qui est sortie pour décrier tout ça, puis c'est à ce moment-là seulement qu'on a décidé d'arrêter d'envoyer des enfants à cet endroit-là. Mais pendant ce temps-là, ben, il y a au moins 6 victimes là, déjà qui se sont manifestées, mais surtout, là, 8 agresseurs différents dans cette maison, dont 3 hommes adultes. Là, on comprend qu'il y aurait le père de famille...
Le beau-frère, parce que des fois, on amenait les jeunes chez le beau-frère, puis on arrêtait, il y a une histoire racontée, on aurait arrêté au Tim Hortons en chemin pour acheter un café aromatisé pour pouvoir dissoudre dedans des drogues pour comme...
Endormir ou assommer
la jeune personne, la mineure, héberger. Là. T'es une jeune qui est supposée être en protection de la jeunesse, donc il se fait amener chez le beau-frère pour en abuser, puis on la drogue en chemin. Puis là, quand le fils de la famille a eu 18 ans...
S'est mis à abuser lui aussi.
Ben, à son tour, embarque dans le club.
C'est absolument horrifiant. Là.
Incroyable,
c'est...
vraiment.
Ouais. Ouais, parce que quand on dit maison de l'horreur, c'est que c'est quelque chose, un comportement et un climat qui a fini par normaliser, si on veut, des agressions sexuelles qui étaient répétées après ça à l'intérieur de la maison par d'autres jeunes, dont le fils de l'homme en question qui tenait la résidence. Vraiment, histoire ahurissante. Puis comme je disais, mais le ministre Lionel Carman a dû réagir là, quand même. Là. Lui dit ne jamais avoir été mis au courant de cette histoire-là, qu'il n'y a pas de mécanisme de protection, là, de lumière qui se sont allumées pour être capable de lui faire dire qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Il a voulu demander...
Non, mais en fait, moi, j'accepte que le ministre n'était pas au courant de ce problème-là. Mais le ministre doit prendre conscience d'un problème de fonctionnement à la DPJ. D'un ouais. problème de... Si c'est arrivé, d'un problème de protection de la jeunesse, d'un problème de... Comment t'as pu considérer pendant 20 ans qu'un lieu, une maison d'abus systématiques, d'abus partagé par plusieurs agresseurs qui se faisaient une espèce de marchandise sexuelle des jeunes qu'on leur confiait. Comment t'as pu pendant aussi longtemps la DPJ mettre ça comme une maison modèle, là, une maison, une famille d'accueil l'idéal? Je veux dire, c'est pas qu'une erreur de lecture des événements. Un, deux, si je suis ministre, moi je me dis, OK, là, si la DPJ laisse passer quelque chose de gros comme ça pendant aussi longtemps,
ouais.
imagine la petite maltraitance au quotidien, comment ils voient rien, là.
Ah non, c'est...
Imagine.
Ça soulève tellement de drapeaux rouges, Mario, cette histoire-là, sachant en plus toutes les nouvelles qu'on reçoit sur la DPJ dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Là, les histoires de centres qui sont complètement désuets, l'utilisation de chambres, là, de salles, de contention dans lesquelles on enferme des jeunes qui ressemblent quasiment à une cellule de prison. La semaine dernière, le tiers des jeunes qui sont placés à la DPJ, qu'on se rend compte qu'ils sont sans emploi, sans scolarité au moment où ils arrivent à 21 ans, les problèmes, ils s'accumulent.
Ce matin, j'ai parlé à Maître Valérie Assouline, spécialisée en droit de la famille, qui fait beaucoup de dossiers de DPJ. Elle me disait qu'à sa connaissance, quand ça sort, là, parce que là, disons tout, là, Éric Jean, le père de famille de la maison, il est en prison présentement, il a été condamné au mois de novembre. Le beau-frère est en attente de procès. Le fils est en attente de procès. La police est débarquée dans la maison. Depuis 2021, il s'est passé des choses dans les dernières années. Mais j'ai demandé à Maître Assouline, est-ce que, quand il y a eu ces plaintes-là, qui ont été prises au sud, là, on a des plaintes de deux jeunes filles, puis la presse en aurait trouvé trois autres. Mais est-ce que la DPJ a fait un interrogatoire, des entrevues, dans une enquête sérieuse, avec tous les jeunes qui sont passés dans la maison, parce que moi, ce qui me concerne, c'est un automatisme. Une fois que tu sais que c'était une maison, que ça allait pas, on parle de environ 70 jeunes là, qui se sont succédés au fil des années. Bon, on comprend que là-dedans, il y en a qui ont aujourd'hui 30-quelques années, il y en a qui ont 20-quelques années, mais je pensais, moi, je me disais, il faut aller les voir un par un pour leur demander, mais qu'est-ce que vous avez vécu dans la maison? Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que tu pourrais avoir, exemple, des gars qui ont été hébergés dans la maison qui vont dire, ben, regarde, moi, il m'est jamais rien arrivé, il attaquait juste les filles, mais je me suis été conscient que le soir, le bonhomme rentrait dans la chambre, telle affaire. Tu sais, une enquête complète, c'est une enquête complète. Tu vas demander à tous ceux qui auraient pu être témoins de quelque chose, rien.
Ben, en plus, pire que ça, Mario, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des dossiers d'enfants de la DPJ qui sont tout simplement pas conservés après un certain temps. On dit, là, maintenant, ce qu'explique là, le ministre, c'est que les dossiers d'enfants sur la DPJ vont être conservés 25 ans après l'atteinte de la maturité.
Mais à l'époque, c'était 5 ans, les dossiers étaient brûlés.
Ben oui, puis le dossier, donc, de la première aujourd'hui une jeune femme, jeune fille à l'époque, celle qui a été agressée en 2004 qui a dénoncé, elle, son dossier, il était volatilisé.
Plus de traces de rien, là. Ouais.
Plus de traces de rien. Fait qu'après ça, bonne chance, Mario, pour trouver tous les jeunes qui sont passés par cette maison-là. Si, en plus, t'as pas les dossiers, t'as pas de récit d'événements, il y a même pas moyen de savoir si... À tel moment, telle époque, il y a un jeune qui a porté plainte puis on l'a ignoré. On peut pas le savoir. C'est fou.
C'est une des nouvelles, disons, bien sombres du jour.
Tout savoir en 24 minutes.
Autre nouvelle sombre, peut-être soulageante pour les proches et la famille de Jesse Duchesneau, ce jeune qui était disparu là, le 4 novembre dernier à Québec, qui a finalement été retrouvé, pas retrouvé, je veux bien évidemment dire, sa dépouille retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent, là, dans le secteur de Saint-Michel-de-Bellechasse où on a retrouvé.
Là, donc très loin du dernier endroit où on l'avait vu, le long de la rivière, parce que c'était, pour les gens qui s'en souviennent pas, c'était à la sortie des bars, on avait des images de lui sortant du bar, avait l'air, bon... soit drogué ou parce que confus. Puis après ça, on avait d'autres images de caméras de surveillance où là, il était rendu sur le bord de la rivière, beaucoup plus loin, mais sur le bord de la rivière Saint-Charles.
Exactement, là, des images qu'il montrait qui sortaient d'un stationnement souterrain, marchait près de là.
Son sel avait été retrouvé dans ce coin-là.
Son téléphone avait été retrouvé dans ce coin-là, mais lui, jamais avait été retrouvé. Et là, ben finalement, c'est pas mal cette thèse-là qui se concrétise, Mario, celle qui serait tombée, là, intoxiquée, que ce soit sur une drogue quelconque ou avec de l'alcool. Là,
mais parce c'est que... sûr que l'impression, c'est que quelqu'un l'a drogué. Là. Moi, je reste sur ce feeling-là, parce que les quantités d'alcool, oui, il était chaud, mais je veux dire, pas ce que ses amis racontent, pas à perdre, pas poser des gestes, pas être perdu comme ça. Souvent, ouais. L'alcool, tu vas plus tomber endormi. Mais là, il était comme un robot, marchait droit dans lui. Tout cas.
Vraiment un comportement étrange qui a été décrié par ses proches qui, comme tu le dis, continuent d'affirmer qu'il a dû être drogué quelque part. Mais là, la thèse, pour l'instant, on ne dirige pas vers une hypothèse criminelle. Ce serait vraiment qu'il aurait marché, puis serait tombé accidentellement dans la rivière Saint-Charles, qui a fini par porter son corps pas mal plus loin.
Pas mal. Donc, la rivière de Saint-Charles vers le fleuve, puis dans le fleuve jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse.
C'est ce qu'on semble comprendre. Pour la famille, là, la pilule est évidemment difficile à avaler, mais quand même, ça va mettre un terme.
C'est toujours l'entre-deux. Là. Quand une famille retrouve le corps, c'est la fin de tous les espoirs. Ouais. Parce que t'as toujours l'idée de le retrouver vivant, là, qui est rendu, je sais pas où, dans une autre province, ou c'est caché, ou quelqu'un l'a caché. Toujours cette hypothèse ou cet espoir-là. Mais de l'autre côté, ils vont toujours finir par dire, ben, c'est moins pire que l'inconnu, là, l'absence de réponse, où tu t'es...
Voir commencer son deuil.
T'as une réponse triste, mais au moins t'as une réponse.
Ouais, surtout que dans les prochains jours, on se préparait à organiser encore des fouilles du côté des bénévoles là, qui ont cherché. Je rappelle, il y avait des dizaines et des dizaines de bénévoles qui s'étaient déplacés pour aller fouiller, pour tenter de le retrouver. Et là, on se préparait à aller dans le coin de l'île d'Orléans, faire le tour au complet pour voir si on ne fait pas le trouver dans l'eau. Ça va épargner tout ça, au moins.
Tout savoir en 24 minutes.
Bon, il y en a des enjeux importants, Mario. On vient de parler de DPJ, on vient de parler de toutes sortes de choses. Mais le vrai problème, selon un des élus du Parti conservateur du Canada, il part en croisade contre ça, ben c'est la fin des pailles en plastique, Mario. Ben oui, le lendemain du jour de la Terre, le lendemain où on a un sommet là, qui se démarre sur l'usage et la pollution du plastique dans le monde, ben les conservateurs ont décidé que c'était ça qu'ils voulaient faire, de ramener les plastiques à usage unique, là, les sacs, les ustensiles, les pailles, tout ça. Puis ça fait tout un tollé sur les réseaux sociaux, Mario, en ce moment.
Ça lance tout un débat, les pailles en particulier. Moi, j'avoue que dans tout ça, je comprends mal la bataille des conservateurs. Je pense qu'ils mettent à risque leurs gains chez les jeunes. En fait, des gains importants chez les jeunes. Je suis le premier à dire qu'il s'est fait, en matière de gestion du plastique, des absurdités totales. Exemple, on ne donne plus dans les commerces des sacs de plastique, parce qu'on dit « Ah, il y a trop de sacs de plastique ». Mais la forte majorité de la population va dire « Ouais, nous autres, on mettait ça dans la poubelle de la salle de bain. On prenait, on les gardait, on se faisait un sac de sacs qu'on mettait dans la poubelle de la cuisine. » Et maintenant, les ventes de rouleaux de sacs ont explosé. Mais... Donc, on a un sac réutilisable. Fait que là, on sort de l'épicerie puis on est comme un champion de l'environnement. Mais si tu fouilles dans le fond de mon sac réutilisable, comme je n'ai plus de sac de plastique parce que ça n'existe plus, ben j'ai un rouleau de 100 sacs que je vais mettre. Mais tu dis « OK, mais là, c'est absurde. » Absurde.
Ouais.
Le cas des pailles, ça semble que c'est vraiment problématique pour l'environnement. En même temps, on les a pas encore. Ben oui, il y en a qui sont corrects, d'espèces de pailles en cire.
Ouais,
il y en a en carton qui finissent par te rouler dans la gueule. Ça, c'est pas acceptable.
Là. Mais à ce moment-là, je veux dire, t'en prends une autre, là. C'est du carton. C'est 100 fois moins dommageable que t'en prends en plastique.
T'en prends une deuxième.
Honnêtement, j'ai de la difficulté, moi, je t'avoue, depuis ce matin, Mario, à cerner. Qu'est-ce qu'on essaie d'aller faire comme gain, comme ça? Y a-tu vraiment des gens qui se sentent lésés là, par leur manque de paille en plastique, qui sont en rue là, déprimés? « Ah, ma paille a fondu, je peux plus boire mon drink. » Je sais pas, moi, ça me sort de... Je sais pas. Je t'avoue que...
Ouais, mais là, c'est parce que... Ouais. Parce que l'abolition... Le danger, c'est que l'impression, c'est que pour se faire... Mettons les villes, les maires des villes... Pour se faire une belle jambe, de dire « Moi, dans notre ville, il n'y aura plus de sacs en plastique. » On a fait des conneries. Pures conneries. Puis de vouloir les réduire, de trouver des alternatives, j'en suis, là. Puis même, les sacs réutilisables. Moi, il m'est arrivé des sacs réutilisables de mauvaise qualité. Première utilisation, d'abord à l'épicerie, ils te les remplissent un peu trop. Première utilisation, la ganse pète. Paf! Bon. Oui, déchire. C'est arrivé ça aussi. Là, tu le jettes. Tu dis, OK, mais en termes de quantité, parce que lui, il est épais, en termes de quantité de matière de déchets, c'est peut-être 500 sacs en plastique ou 200, c'est, tu sais, c'est beau. Parce que le sac en plastique, c'est minuscule. C'est une petite quantité de matière.
On se comprend.
Fait que là, tu dis, OK, j'ai-tu vraiment fait un gain? Mettons, c'est quasiment... J'ai jeté en une journée là, un équivalent de 6 mois de sacs en plastique.
Oui.
Que j'aurais remis dans ma poubelle de toute façon. Ou ramasser la litière des chats ou...
À voir si ça va réussir à faire des gains pour le parti, Mario. Mais pour mais les sacs, je comprends. Et ustensiles, puis paille, là.
Les ustensiles en bois, ça, c'est une autre affaire. Hein.
Ben, moi, je trouve ça bien correct.
Ouais.
Ouais.
Mais pour certaines affaires, ça mange pas. Mais en plastique non plus. Les ustensiles. Ouais,
les ustensiles en plastique, c'était vraiment.
Moi là-dessus, je trouve que.
Aussi.
Ouais. Les ustensiles en plastique, c'est terrible.
Le petit couteau en plastique qui plie à seconde de s'être coupé, quoi que ce soit.
Mais en bois, ça marche pas, puis ça donne un goût à certains aliments s'ils sont pas de bonne qualité. Mais ça, c'est vraiment un cas de dire les foires alimentaires, tout ça. On peut-tu se forcer? C'est parce que les gens les volent. Je sais,
dit. Oui, tu l'as dit vite, puis...
En métal, les gens les volent.
Mais tout le monde va y voler.
Mais ça n'a pas de bon sens, là.
Les gens volent c'est... tout. Des restaurants, les restaurants se plaignent qui se font voler des verres, des ustensiles, des... Dans... Il n'y a pas un bar à Montréal, Mario, qui va dire « Ouais, on a encore tous nos verres de cadre, nos verres. » Les gens partent avec des verres dans les poches, puis ah ouais, donc.
Ah, oh, j'ai rien dit.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Il y a autre chose qui risque de faire jaser. Nos voisins de l'Ontario ont adopté de nouvelles mesures. Mario, après un certain temps de projet pilote, voici qu'on va mettre la limite de vitesse à 110 km/h sur à peu près 250 km d'autoroute provinciale à partir du 24 juillet prochain. Ça fait à peu près 2 ans donc qu'on était là, dans les cartons pour ça, faisait un projet pilote.
Des meilleures routes, de meilleure qualité.
Voilà, puis on essayait de voir si c'était ça causait des agréments d'augmenter la limite de vitesse à 110.
On a le 100 km/h qu'on a au Québec, au Canada, c'est parmi les plus bas au monde, là. En termes de limite de vitesse, c'est le minimum mondial. C'est parmi les plus bas au monde. Bon, je sais qu'on se défend au Québec en disant « Ah, mais c'est parce que nos routes sont tellement dégueulasses. » Bon.
Vrai.
Ouais, une fois ça dit, tu dis « OK, mais là, on peut-tu avoir des segments de route? » Mais moi, je suis plutôt de cette école-là. Parce qu'écoute, les véhicules se sont tellement améliorés. La qualité, la sécurité des véhicules. Si on parle des véhicules d'aujourd'hui puis ceux des années 70, ça n'a pas de bon sens qu'on ait la même limite de vitesse. Les véhicules sont beaucoup plus sécuritaires. Ils se conduisent quasiment eux-mêmes pour éviter les accidents. Puis, les accidents arrivent pas tellement, là, tu sais, sur des... Tu sais, les accidents, quand ils arrivent sur les autoroutes, c'est souvent des comportements complètement déviants. Et pas juste quelqu'un qui prudemment roule un peu plus vite la limite.
Mais là, il y a des questionnements, par contre, Mario. Parce que là, je veux bien, 110, la limite. Mais c'est quoi la vraie limite? Parce que ouais, là,
Présentement, on tolère 117, 118, selon ce que je comprends. Fait que là, c'est ça. Est-ce qu'à 110, tu tolères 127, 128?
Parce que si la limite, c'est 110, mais en haut
de 120... On tolère encore 117, 118.
Ça change pas grand-chose.
C'est le statu quo.
Ouais.
C'est une bonne question.
Actualité.
Jugement assez intriguant, merci Mario, par le juge Denis Galiastanos en mars dernier, qui a fait sourciller pas mal, mais qui est assez intéressant, merci, surtout dans le climat en ce moment, des armes à feu puis de la prolifération des armes illégales à Montréal et un peu partout. C'est un juge qui a tranché en Cour du Québec sur le fait que fouiller un sac à main pour homme, un man purse en anglais, ce n'est pas de la discrimination. Je t'explique le cas, c'est qu'un jeune homme qui a été arrêté, le Marcus Niméry, 25 ans, dans le coin du Centre Bell, est en train de se promener et il a de ses man purse. Là. C'est vraiment le terme qui est utilisé dans la rue. Petit sac
le
à
sac
main.
Le sac à main pour homme. Là,
sac à main pour homme griffé la plupart du temps.
Un petit peu
donc,
à la mode, là, c'est ça.
Un peu à la mode, mais ça, semble-t-il, que c'est l'endroit favori pour les gens du crime organisé et d'autres milieux criminels pour cacher leurs armes illégales. C'est tellement un modus operandi fréquent qu'à l'école de police, là, quand on fait une formation pour détecter puis contrôler les armes, on dit que c'est un des endroits à repérer en premier lieu. Ce qui fait en sorte que, ben, M. Niméry s'est fait arrêter sur place, on lui a demandé d'ouvrir son sac et hop, qu'est-ce qu'on trouve dedans? 5 000 $ en argent comptant et une arme qui a été même trafiquée pour qu'on puisse tirer de manière automatique avec le pistolet. Et là, ben, au procès, l'avocat de M. Niméry a essayé de faire invalider tout ça en disant, mais regardez, c'est du profilage, mon client, vous avez pas le droit d'arrêter les gens dans la rue pour fouiller dans leur sacoche. Mais le juge a tranché en disant, c'est pas un accessoire qui est lié ni à la culture, ni à l'identité, ni à l'intégrité de qui que ce soit, ni à une couleur de peau.
Mais est-ce qu'on peut fouiller la sacoche d'une femme?
Ça, c'est une bonne question, mais est-ce
Parce
que
là, c'est pas... Faut que ce soit, c'est la même, c'est le même objet, là, essentiellement. C'est pas la même forme. Souvent, les femmes vont avoir une ganse que les hommes n'ont pas. Ça va être différent comme objet, mais en termes d'utilité, c'est le même objet. Tu peux pas avoir des règles différentes, là.
Mais ça va peut-être faire jurisprudence là-dessus, Mario. Ça va être à voir, mais je trouvais quand même intéressant qu'on se soit penché particulièrement sur ça.
Mais en tout cas, dans le cas qui nous occupe, on a trouvé de quoi, là? On a trouvé, on n'a pas fouillé au hasard, on a trouvé de l'argent comptant suspect puis une arme à feu illégale.
Il y avait des policiers impliqués dans le dossier. Lui, il dit, c'est pas compliqué, j'ai trouvé 30 armes de poing que j'ai saisies dans ma carrière. 80% de ces 30 armes-là, c'était dans des man purses.
Ah ouais?
Ouais.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
En terminant, Mario, statistique intéressante qui vient quand même faire du bien, là, alors qu'on entend tellement de désinformations sur les vaccins. Ben oui, je vous parle de vaccins encore et toujours, parce que dans la revue scientifique prestigieuse de Lancet, on a une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui est venue faire l'espèce de calcul à savoir combien de gens sont sauvés par la vaccination dans le monde. Puis là, je parle même pas de vaccin COVID. Là. Je parle de vaccination tout genre.
Toutes les maladies infantiles, les maladies graves, les maladies mortelles de voyageurs.
Ben, on a tendance à l'oublier, Mario, avec toute la désinformation, mais c'est... Là, on étudiait 14 maladies précisément. Là. Même pas les autres. La COVID n'en fait pas partie. Là. C'est diphtérie, hépatite B, rougeole, coqueluche, tétanos, fièvre jaune, entre autres, qui étaient dans tout ça. Et on se rend compte que dans les 50 dernières années, c'est 154 millions de vies humaines qui auraient été sauvées grâce à la vaccination. La très, très forte proportion là-dedans, ben c'est des nourrissons, des enfants qui n'auraient jamais passé l'âge de 5 ans sans la vaccination. Là,
non, mais je veux dire, les taux depuis la vaccination et la salubrité, c'est la mortalité infantile, ça a baissé.
40% dans le monde, mortalité infantile qui a baissé, 50% et en haut en Afrique, dépendamment du pays, entre autres.
Ouais, on est dans un autre monde. Là, autrefois, je veux dire, rendre un bébé à un an, là, c'était déjà quelque chose. Là. Maintenant, un bébé qui meurt, c'est une catastrophe, c'est un événement. Notre perception de perdre un bébé a changé beaucoup avec la santé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là.
La rencontre Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Alors, tu te penches sur ce dossier de la non-responsabilité criminelle là, de gens qui auraient commis un crime, mais qui, lorsque jugés, ont fini par dire qu'ils sont criminellement non responsables de leurs gestes. Il y en a beaucoup, et il y a le Devoir qui se pose des questions ce matin là, sur le sérieux autour de ça.
Voilà, le Devoir qui est en une, mais justement, ils ont fait une espèce d'enquête, en fait, ils ont calculé en 2023 seulement, sur les 371 dossiers de gens qui ont été considérés non criminellement responsables de leur
acte. C'est déjà beaucoup là, quand on a le chiffre.
Et 371, c'est beaucoup de monde, Mario, t'as raison de le dire. Là-dessus, il y en a 89 qui ont été finalement eu le même verdict de non criminellement responsable. Plus qu'une fois, là, c'est des gens qui sont connus, qui ont déjà reçu ce même genre de verdict, c'est-à-dire t'es pas responsable pour cause de trouble mental, faut-il rajouter. C'est donc à peu près l'équivalent d'une personne sur quatre qui est connue, qui est un récidiviste et dont on a finalement mal évalué la dangerosité. C'est ça, parce que quand je regarde cette enquête du Devoir, je me dis, mais ça se peut pas. Puis il commence en rappelant ce cas qui leur a donné envie de faire ce calcul-là, qui est vraiment, je trouve, très, très symptomatique de quelque chose, puis qui nous apprend beaucoup de choses sur la gestion, la mauvaise gestion du système. Tu sais, c'est pas nouveau là, qu'on se questionne là-dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même l'Institut Pinel, en 2015, donc il y a 9 ans, même pas 10 ans, il avait fait le même genre de calcul. Et à l'époque, il y a 9 ans, c'était 8% des gens qui étaient, donc 8% des gens qui avaient déjà été dans le même, qui avaient reçu ce genre de verdict, qui étaient donc connus par le système.
De 8, c'est monté à 25.
Plus. C'est ça. Hey, écoute, c'est 24%, c'est 3 fois plus qu'il y a même pas 10 ans. moi, je pose la question, puis c'est même pas moi qui la pose. Je veux dire, il y a des gens dans le milieu, dans le système carcéral, juridique, des profs en droit, toutes sortes d'intervenants qui disent, et même des médecins, je pense aussi, des psychiatres qui sont ceux qui sont sur la première ligne puis qui ont cette espèce de patate chaude à gérer parce que, tu sais, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 45 hôpitaux qui ont après des plans d'intervention pour gérer ces clientèles-là qui leur arrivent parce que, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça pour que les gens sachent bien? Quand tu es jugé non criminellement responsable de tes actes, d'abord, en théorie, là, ça te prend un vrai trouble mental grave qui est tellement grave que c'est une atteinte à ton bon jugement pour savoir, tu poignardes quelqu'un 32 fois, ben tu t'en rendais pas compte parce que t'étais en psychose.
Ils disent le fameux critère, c'est d'être au moment des gestes là, totalement incapable de reconnaître le bien du mal. Et donc de constater que ce qu'il est en train de faire, c'est le mal. Faut être voilà. Perdu. L'exemple que tu donnes, frapper quelqu'un au couteau, pas se rendre compte que c'est mal, faut être perdu rare, là.
Voilà. T'es vraiment pas là. Mais ce qui est inquiet. Et donc, là, les médecins, donc, tu vas pas en prison, tu vas donc dans un institut, une institution psychiatrique. C'est ça, là, que ça te permet de faire. Ça te permet d'éviter la prison. Pourquoi c'est important de pointer ça du doigt? C'est que c'est devenu, à mon avis, une défense bien trop utilisée, tu comprends? Il y a des gens, moi, je pense, qui ne sont pas si gravement atteints. Puis je pense que ça a été un peu documenté dans plusieurs cas que Le Devoir mentionne. D'ailleurs, il y en a eu des gros cas, là. Évidemment, il y a des gens qui sont complètement psychotiques, il y a des psychopathes, tu peux avoir toutes les maladies mentales possibles. J'en profite pour dire quand même que c'est pas parce que tu as une maladie mentale ou un trouble mental que tu es dangereux. Bien au contraire, la majorité des gens qui vivent avec un trouble mental ne sont pas dangereux. On parle ici là de gens qui sont dans des troubles de santé mentale,
violence, qui est une minorité, mais...
Et une partie, tu sais, comme la schizophrénie, par exemple, c'est documenté que la schizophrénie, c'est pas un petit enjeu d'anxiété ou de dépression, c'est pas un trouble mental comme un autre. Tu comprends? Je trouve qu'on a beaucoup mélangé les troubles mentaux au cours des dernières années, je trouve. T'sais, on a mis un peu tout ça parce qu'on voulait aussi comme un peu banaliser dans la bonne façon. T'sais, on voulait pas pointer du doigt les gens qui avaient des enjeux de santé mentale. Fait qu'on a comme ouvert en disant, c'est correct, là, tu vis avec ça, c'est correct de vivre avec ça, ça peut faire partie de toi. Mais quand on parle de schizophrénie, puis j'ai assez fait d'entrevues avec des psychiatres là-dessus pour qu'eux-mêmes le disent, un schizophrène, c'est un grave trouble mental qui peut dégénérer en violence, en acte violent. Et c'est ce qu'on a encore comme confirmation aujourd'hui. Si on attendait d'autres chiffres pour nous convaincre qu'il fallait à tout prix un recadrage du système. Mais là, qu'est-ce que ça nous prend? Écoute, le cas dont on parle, c'est entre autres, le plus récent, c'est celui de la policière Maureen Brault, tu sais, qui a été assassinée à Louisville l'année dernière. Il y a d'ailleurs un patrouilleur qui a été blessé. Puis finalement, l'homme de 35 ans, Isaac Brouillard-Lessard, qui l'a attaqué, qui était complètement en psychose. Les parents avaient prévenu, ils savaient que c'était une bombe à retardement, mais il était non criminellement responsable 5 fois, là. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, 5 fois non criminellement responsable de ses actes. Combien de fois tu peux être non criminellement responsable de tes actes, Mario?
Ouais. Mais encore plus récemment, là, comment il s'appelait la... Je cherche le Pulizzi, là.
Pulizzi,
qui a tué sa mère.
Et
une voisine, qui était venue essayer de sauver la vie de sa mère et qui a blessé une deuxième voisine. Lui, il avait un historique, avait été condamné pour troubles mentaux, avait réagressé, mais quelques semaines avant de tuer sa mère, une inconnue, là, sur le trottoir, il marchait dans son quartier sur le trottoir, avait attaqué une inconnue. On l'avait interné, ressorti. Et là, ce coup-là, dans une crise, il a tué sa mère, la voisine est venue aider, tenter de sauver la vie de la mère, est assassinée elle aussi, puis l'autre voisine, par miracle, là, a survécu à l'attaque. Il a failli tuer trois femmes, là.
Complètement, puis des histoires comme ça, puis c'est des vrais enjeux de santé mentale, vraiment très, très forts. Ce sont des gens qui doivent être absolument suivis, mais le problème, c'est que le système... T'sais, à la rigueur que tu dises, cette personne-là, elle a un trouble mental tellement grave, on peut pas la mettre en prison, c'est pas la bonne place. Moi, je suis d'accord avec ça. mets-le pas en prison. C'est pas la prison, je pense pas non plus. Non. Mais le fait qu'après 5 fois, après, ça veut dire, pourquoi 5 fois criminellement non responsable? Ça veut dire qu'il y a eu 5 gestes de violence. Ça a été
des 5 victimes, à chaque fois des victimes.
Et à chaque fois, minimalement 5 victimes, puis des fois, il y en pogne 2-3 en même temps, t'sais? Donc, mais donc, si c'est pas la prison, c'est donc un hôpital psychiatrique, une institution. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme des manques, là. Et il y a 45 hôpitaux psychiatriques et il y a aucune conséquence. Il y a pas de suivi. S'ils veulent pas avoir de traitement, ils sont pas obligés d'avoir un traitement. Alors, là, ça va juste empirer. Et puis, pour les avocats de la défense, ben, c'est une défense qui est de plus en plus facile et de plus en plus acceptée.
Qu'on entend de plus en plus souvent. Merci, Isabelle.
Ben, merci.
Au revoir.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
Des mauvaises nouvelles pour le géant des télécommunications Rogers.
Oui, effectivement, c'est tu qui ont avalé chat là dans la dernière année et puis ça apparemment c'est plus compliqué que ce qui était anticipé là, donc ça s'est traduit par des coûts exceptionnels là, dans les centaines de millions de dollars par rapport à ce qui avait été prévu. Donc essentiellement, ils annoncent un bénéfice net qui est quand même assez bon là, de 256 millions de dollars au premier trimestre, mais ça se compare très désavantageusement aux 511 millions de dollars là qu'ils avaient annoncé et date l'année dernière. Donc, c'est essentiellement là, ces coûts-là liés à la restructuration.
Mais tout le secteur en arrache quand même. Tu sais, les actions de Bell sont à l'heure plus bas depuis, je sais plus, une décennie. TELUS, c'est difficile. Aux États-Unis, c'est la même chose. AT&T, Verizon, c'est des compagnies dont on dit qu'ils ont fait des belles périodes et faisaient beaucoup d'argent. Là, la concurrence est devenue féroce. Le 5G a exigé des investissements de fou.
C'est clair. Ça reste que, fort heureusement, puis tu sais, on le vit avec Québécois, ça reste des business plutôt stable, puis tu sais, généralement assez profitable malgré tout ce que tu viens de dire. Puis c'est souvent ce qui permet.
Elles ne sont plus aussi profitables qu'à une époque. Parce qu'on les compare avec leur passé récent.
Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais ce que l'avantage, puis moi, c'est entre guillemets pas ce qui m'inquiète, mais ce qui. C'est que, tu sais, justement, c'était hautement profitable. Puis souvent, ces entreprises-là qui étaient intégrées, ben elles avaient un volet téléphonie, télécommunication, Internet et un volet plus contenu, Cube Radio, là, tu sais. Qui. Et l'un finançait à quelque part le reste. On sait maintenant que le modèle d'affaires là, des cubes et des TVA de ce monde est plus difficile, mais si en plus la vache à lait se met à moins bien aller, ben à un moment donné, c'est l'entièreté de la patente. Donc, tu sais, je voulais faire un peu ce parallèle-là avec ce qu'on vit plus proche de nous. Tu sais, Rogers a une présence au Québec, Shaw pas vraiment, mais si Rogers se met à mal aller, ben c'est évidemment toute la filière contenue là, de Rogers qui pourrait aussi souffrir.
Ouais. À suivre. Ça va mieux chez Netflix?
Ben, tu sais, peut-être que ceci explique
cela. Oui, c'est ça.
Mais fou raide, là, si tu me permets l'expression, là, Netflix.
Il semble qu'à l'année passée, il y a 2 ans, il y avait eu une période où les résultats de Netflix, petit ralentissement, mais là, c'est plus ça. Là.
Oui, mais non.
c'est repris.
C'est repris. Écoute, ils ont annoncé des résultats pour le premier trimestre, là, des revenus en croissance de 13%, là, ce qui est quand même, tu sais, pour une entreprise mature, là, qui est quand même phénoménale d'année sur année. Donc, à 9,2 milliards de dollars pour le premier trimestre. Et surtout, ce qui est étonnant, Mario, c'est que tu sais, dans cette espèce de lutte des streamers, là, à un moment donné, il y en a qui perdaient des abonnés. Là, tu te rappelles, on avait fait des chroniques là-dessus avec Disney, etc. Mais là, Netflix est clairement en train de reprendre le haut du pavé, mais de loin. Ils ont gagné dans le dernier trimestre 10 millions d'abonnés, ce qui est quand même pas peu de gens. Puis tu sais, avec tout ce qu'on a raconté...
Dans le marché américain, nord-américain ou international, un peu partout?
25 à 30% nord-américain, 70% hors Canada. États-Unis, ce qui est quand même très bon aussi là, pour le modèle d'affaires.
Qui percent des nouveaux pays, des nouveaux marchés.
Ou qui solidifient. T'sais, la France est forte sur Netflix. En tout cas, je connais pas tous les pays dans lesquels ils sont, mais oui, effectivement, ils acquièrent des abonnés ailleurs avec des contenus de plus en plus diversifiés dans tous ces pays-là. T'sais, on casse du sucre sur le dos de Netflix, puis je suis d'accord que c'est pas nécessairement...
Mais ils s'adaptent dans tous les pays, les langues.
Ils mettent de l'argent. Là. T'sais, encore une fois, est-ce que c'est assez? Je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais ça reste que c'est une entreprise qui a vraiment appris à jouer la carte de la culture nationale un petit peu partout où ils sont installés, à mettre des sous dans ces cultures nationales-là. Comme on le sait au Canada, là, c'est quand même à coût de centaines de millions de dollars dans la production locale. Bon, est-ce que c'est mieux d'avoir un Netflix ou un fonds des médias? Débat pour une autre fois. Mais en tout cas, ils font leur part, puis ça se traduit évidemment par des chiffres d'abonnement absolument extraordinaires. Puis tu sais, Mario, tu te rappelles, on avait fait grand cas, là, ils ont arrêté le partage des comptes. Là, puis
on pensait que les gens allaient les boycotter, mais c'est le contraire. Là. Tout le monde, les gens qui avaient plus accès aux comptes se sont tout simplement réabonnés, puis ça a fait des abonnés de plus.
Pour chaque chaque Zouf qui a déchiré sa chemise sur Facebook en disant « Moi, Netflix, c'est plus jamais. » Il y en a trois qui se sont abonnés probablement. Fait qu'effectivement, le bilan est plutôt positif pour la marque. Puis donc, effectivement, alors qu'on sait que Disney a des difficultés, on sait que bon, plusieurs autres acteurs, Amazon Prime, ils ont commencé à intégrer un forfait avec de la pub. On dirait que tous les autres acteurs rushent un petit peu Netflix. Encore, on dirait, le haut du pavé, là, puis ils continuent de mener le bal dans cet univers-là. Puis tu sais, franchement, Mario, ils approchent 300 millions d'abonnés, là, comme ça, c'est beaucoup de monde à l'échelle de la planète qui regarde cette plateforme-là.
Qu'est-ce qu'on doit penser? Hier, Tesla, parlant de résultats de compagnie, Tesla a présenté les siens, quand même des baisses importantes des ventes, un ralentissement de la croissance, mais de la Chine à l'Europe, à l'Amérique du Nord, on dit partout l'auto électrique, il y a quelque chose, il y a une croissance forte qui est moins là.
Ben, j'ai écouté ta très bonne entrevue avec Daniel Breton, d'ailleurs, qu'on salue, mais tu sais, c'est sûr que, bon, je veux juste remettre les pendules à l'heure, il n'y a pas une décroissance là, dans le nombre de véhicules électriques vendus ou dans la pénétration de ce truc-là, il y a un ralentissement du rythme auquel ça augmente, là, tu sais, puis je sais que
ça augmente moins
ça
vite.
Ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins vite que jadis, pour plein de raisons. Je pense que le ralentissement économique, si on peut l'appeler comme ça, qui un peu moins vrai aux États-Unis, mais en Europe, au Canada, en Chine, forcément, ça touche pas mal de monde. Ben, les gens vont moins être prêts à mettre.
On oublie souvent la Chine. C'est le plus gros acheteur d'auto électrique du monde.
Et le plus gros fabricant, d'ailleurs, aussi. Avec BYD qui a dépassé Tesla. Ben, c'est sûr que tous ces marchés-là ont un peu ralenti leur consommation de véhicules neufs. Ça continue de progresser, mais un peu plus lentement, et essence ou électrique de manière générale. Puis les véhicules électriques, l'enjeu, Mario, puis tu sais, j'ai fait une étude là-dessus avec HEC il y a quelques années, mais le coût initial est plus élevé. Puis après ça, tu sauves. Puis tu sais, je veux pas te faire gérer rien à te vendre, mais tu sais, tu sauves là, sur 5 ans. Là, c'est très avantageux un auto électrique.
Sur l'essence des changements
d'huile. Mais au moment de l'achat, c'est comme, oh, qu'est-ce que tu me dis là, 50 000, 60 000, c'est un gros montant. Et donc, ça peut être, surtout quand les taux sont à 7, 8, 9%.
Mais est-ce qu'il pourrait avoir une réaccélération? Parce que là, hier, Elon Musk, dans son bilan, de son présentation de son bilan, a laissé entendre que là, on y va là, avec le modèle moins cher, parce que ça, c'était remis en doute, mais il a dit non, il n'y a pas de remise en doute, on y va avec le modèle moins cher, puis on dit qu'il y a d'autres fabricants qui arrivent avec du 30 000, 35 000, des modèles beaucoup plus abordables, parce que peut-être, il y a quand même eu beaucoup dans l'auto électrique présentement, t'as beaucoup de 60, 70, 80, 100 000, des beaux véhicules, mais c'est pas à portée
de tout
le monde.
Puis juste, tu sais, sur Tesla, finir rapidement là-dessus, bon, ils ont diminué le nombre de véhicules vendus, ils ont diminué les ventes, donc c'est le market leader là, qu'on pense, ça reste un symbole, je pense, pour beaucoup de gens, mais un des enjeux, c'est qu'il y a plein d'autres mondes qui s'en viennent, puis là, oui, Tesla a annoncé un plus petit véhicule, là, ils ont dit qu'ils mettaient beaucoup d'énergie là-dedans. En fait, malgré les résultats décevants, le prix de l'action a comme jumpé là, chez Tesla hier. Donc,
mais je pense, entre autres, parce qu'il a confirmé qu'il n'abandonnait pas son projet de véhicule moins cher.
Ouais,
de
modèle 2, c'est ça, 35 000. Et plein d'autres manufacturiers qui a, tu sais, les Coréens, évidemment. Les Chinois vont tôt ou tard finir par vraiment débarquer. Les Vietnamiens, genre, t'as parlé avec Daniel Breton, dont la conjointe est vietnamienne, d'ailleurs. Mais tu sais, il y a plein d'acteurs. Puis là, quand tu vas commencer à avoir des chars qui coûtent rien à entretenir, qui coûtent rien à opérer, qui te coûtent 32 000 $ à l'achat, ça va être un no-brainer.
Ça risque de reprendre, surtout si le gaz est à 2$. Merci, Francis.
Demain.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Alors, on va revenir sur le sondage Léger dont on a commencé à vous parler hier. On vous a donné quelques résultats. Mais d'abord, un échange en chambre qui a fait réagir aujourd'hui entre François Legault et le chef du PQ. On en parle tout de suite avec nos analystes Mario, Paul et Emmanuel. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir, Sophie.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, on vous présente l'extrait à nouveau.
Si jamais il perd un troisième référendum, sa souveraineté, va-t-il devenir caquiste? On pourrait se demander ça, Madame la Présidente. Bien, Madame la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Écoutez, c'est son problème.
Bon, et on a vu les bras croisés de Mme Roy. La caméra n'était pas sur lui, donc on a vu M. Legault s'empresser de détailler le geste qu'il venait de voir. Oui. M. Saint-Pierre Plamondon, il a fait son mea culpa assez rapidement sur ses réseaux. Alors, vous en dites quoi? Est-ce qu'on doit lui jeter la pierre? Mario?
Tu sais, la semaine passée, c'était pas vraiment grave. Là, il s'était choqué un peu. Il est sorti de la commission parlementaire avant le temps. Il a reviré ça par l'humour. Là, il est obligé de s'excuser en sortant. Bon, c'était encore, il dit, une boutade. C'est pas en soi si grave. On comprend qu'il n'y a pas de malice dans son geste. C'est certainement inapproprié dans le contexte de tout ce qu'on a fait comme prévention du suicide. C'est juste qu'il y a deux affaires. Un, ben là, il faudra pas qu'à toutes les semaines, il faut qu'à sortant de la période des questions, il fasse un message sur Twitter par l'humour ou les excuses pour se justifier. Ça va finir par être ça, son bilan, en fin de la session. L'autre affaire, c'est que ça vient, on l'a dit un peu en filigrane la semaine passée, mais ça vient avec quelque chose qu'on entend de Québec. Que quand le Parti québécois était à 10 % il était collaboratif. Il voulait aller dans les médias. Il était prêt à donner des entrevues. Il était humble et sympathique. Puis là, ben, une fois rendu au sommet, on le sait qu'on est au sommet, puis c'est plus difficile à avoir en entrevue. Pas M. Saint-Pierre Plamondon, mais c'est ça là, qui est à faire attention quand t'es. C'est toujours le danger que quand t'es rendu le meneur, que tu te fasses accuser de changement d'attitude.
Dans le temps, on peut se poser la question, Emmanuel, jusqu'à quel point on fait le jeu de la CAQ en insistant trop là-dessus?
Ben très certainement là, pour poursuivre sur l'allégorie de Jésus là, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre là. Je veux bien, mais c'est malheureusement là, s'ouvrir les veines, se faire harakiri, ça fait partie des gestes, des expressions de la culture populaire. C'est pas brillant, mais moi j'en suis là de l'analyse de Mario, c'est qu'à la longue, il y a un problème pour Paul Saint-Pierre Plamondon que de s'expliquer et s'excuser une fois par semaine. Puis ça sera pas long qu'on va faire le lien entre ça et un autre péché, qui est le péché d'arrogance, qui en politique peut être très, très dévastateur, surtout pour l'image d'un chef qui a été forgé autour de l'idée de faire la politique différemment.
Moi, bon, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, enfin, on ne l'a pas vu parce que ce sont les règles de l'Assemblée nationale. Si François Legault n'en parle pas, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est une erreur de recrue. Monsieur Saint-Pierre Plamondon est une recrue, là, comme chef et comme parlementaire. Et puis, ce genre de choses, évidemment, il doit le regretter, je dois le comprendre, mais en même temps, bon, c'est pas un péché mortel non plus, ce qu'il a dit. C'est une expression qui est consacrée dans le vocabulaire. Qui n'a pas pensé ça aujourd'hui en voyant les flocons de neige tomber, là, évidemment, au deuxième niveau, au sens figuré. Moi, j'ai vu bien pire que ça à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais à la galerie de la presse. Mario, tu étais sur la patinoire, puis avoue qu'il y a eu des choses bien pires que ça. Mais c'est un rappel pour M. Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il mène, parce qu'il est dans l'antichambre. S'il y avait une élection dans quelques mois, il est dans l'antichambre du pouvoir. On est loin de là. Mais n'empêche, c'est lui qui mène. Il doit être doublement, triplement prudent.
La rançon de la gloire et du sommet de la pyramide des sondages. Et parlant de sondages, revenons-y à notre sondage léger, une majorité de répondants là, qui veut plus de pouvoir, mais qui disent non à un référendum sectoriel sur l'immigration. Vous y comprenez quoi, Mario?
C'est trop québécois. C'est trop magnifique de la mentalité québécoise, parce que les gens disent, ben regarde, tous les pouvoirs en immigration, ça, t'sais, l'autonomie du Québec, ça c'est correct, puis on a plus notre premier ministre, on a plus M. Legault pour ça. Mais quand on leur demande, non, mais là, M. Legault, il pourrait avoir besoin de vous, là, il pourrait venir, tu sais, s'il se fait dire non, puis qu'il n'y a rien à faire à Ottawa, il pourrait venir vous demander son appui, ah, ben, là, qu'il s'arrange, qu'il nous laisse tranquille avec ça, un référendum, qu'il se débrouille. Ben oui, c'est comme ça que j'interprète ce que les gens disent.
Moi, il y a une sagesse populaire là-dedans. Tu sais, les gens suivent l'actualité, voudraient que le Québec donne raison à Québec dans ce débat-là, mais comprennent aussi qu'un référendum serait tout à fait inutile. Tu sais, il y aura beau voter à 95 % Ottawa a déjà dit non. Ils vont dire non, puis ça donnerait quoi un référendum? Moi, c'est ce que je vois là-dedans.
Ouais, t'es pro-Paul ou pro-Mario, Emmanuel?
Mais moi, je suis ailleurs.
Reste avec nous.
Sérieusement, là, à part les fanatiques de politique là, comme nous, là, monsieur, madame, tout le monde, qui se comprend ce que ça veut dire un référendum sectoriel sur les pouvoirs en immigration? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est tellement pointu, c'est tellement obtus, que là, on est là, puis un référendum pour quelque chose que le gouvernement est supposé négocier. Je veux dire, le Québec a de la misère à rallier les gens à l'idée de la souveraineté. Là, on va aller faire un référendum, puis se déchirer sa place publique sur une truc de... Tu sais, je veux dire... C'est un peu obtus, là, tout ça. Puis moi, je pense que ça illustre le péril qu'a pris M. Legault à vouloir brandir cette idée qui ne veut pas dire grand-chose puis qui ne s'en va pas très loin non plus. Ouais,
Ce que les gens disent, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Pour le reste, Paul,
le discours de M. Saint-Pierre Plamondon affolant sur la disparition du français, le Canada qui veut nous effacer... Les gens sont pas tout à fait sur la même ligne.
Exactement. Il a poussé le bouchon un peu loin, mais en même temps, il y a quand même son noyau à lui qui l'appuie là-dessus. Mais c'est un autre appel, un autre petit voyant jaune pour M. Saint-Pierre Plamondon. Appel à plus de prudence dans le choix de ses mots, notamment.
Ouais. Bien. Les conservateurs fédéraux partent en croisade pour les pailles, sacs et ustensiles en plastique jetable. J'ai très hâte de vous entendre là-dessus. On en discute au retour.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
On parle beaucoup de sondages. On avait ce léger là, sur la politique québécoise ces dernières heures. Mais il y a Angus Reid, si vous les suivez, par exemple, sur un réseau social comme X, comme Twitter, ils sont tout le temps là. Et essentiellement, ils sont en permanence sur toutes sortes de questions. Et là, il y en a un qui m'a intéressé sur le budget. Mais tu sais... Ils demandent aux gens, êtes-vous d'accord avec le budget? Mais tu sais, c'est dur pour la population à analyser les mesures du budget une par une. Es-tu bonne? Es-tu pas bonne? Là, t'as entendu aux nouvelles des économistes. Il y en a qui ont aimé ça, d'autres pas. Mais donc, une question très générale, une question, disons, plus d'un sentiment général par rapport au budget. Alors, basé sur ce que vous avez lu et entendu, est-ce que le dernier budget fédéral vous rend plus optimiste ou plus pessimiste? Alors, plus optimiste, plus pessimiste, c'est sur deux questions, vous allez voir, bien intéressantes. La personnelle puis la collective. D'abord, est-ce que vous êtes plus optimiste ou plus pessimiste par rapport à votre situation personnelle financière, votre situation, la situation de vos finances familiales? 9% disent que le budget les a rendus plus optimistes. 38% rien changé. 47% disent que le budget Trudeau les a rendus plus pessimistes. Et j'avoue, là... C'est qu'il y a un budget, c'est l'occasion, c'est le gouvernement qui a le micro, c'est le gouvernement qui parle. Enlevez les 38% qui disent là, ça ne changera rien. 9% qui sont plus optimistes. 47% qui sont plus pessimistes. Sur une autre question, mais celle-là, la collective, plus optimiste ou plus pessimiste, sur le futur économique du Canada, sur le bien-être du pays, le bien-être économique du pays, encore là, 12%. Le budget les a rendus plus optimistes, que ça va aller mieux. 26%, donc il y a moins de gens qui pensent que ça ne changera rien. Juste 26%, c'était 38% pour leur situation personnelle. 26% qui pensent que la situation économique du pays ne sera pas affectée. Et 56% des gens, quand on vous dit que Justin Trudeau a des problèmes, là, 56% de la population, le gouvernement dépose un budget. Je dis, le gouvernement lui dit, ah, moi je m'occupe de logement, je m'occupe des bonnes affaires, je veux créer la prospérité. 56% de la population du Canada en conclut que faut être plus pessimiste par rapport au futur économique du Canada. Difficile de penser que ce budget-là a bien passé.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
On est de retour pour vous parler des caisses. C'était à un certain moment, on pensait quasiment que ça allait remplacer complètement les personnes à la caisse, les caissiers ou caissières, les caisses libre-service, parce que c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est un métier caissier, caissière, on manque de monde, là. Je veux dire, on va pas mettre quelqu'un là. Et ça, c'est, écoute, on en a mis des Walmart, c'est aux États-Unis, beaucoup, beaucoup. On a remplacé des caisses par des caisses libre-service. Et on en reparle aujourd'hui parce que on a toute une série de reportages là, dans des Walmart, dans des Dollar General, qui serait l'équivalent de notre Dollarama ici, dans des Costco. On revient en arrière, pas complètement. Il y a nulle part où on dit on a enlevé toutes les caisses libre-service, mais on revient des caisses régulières, on mélange les deux, on réduit le nombre de caisses libre-service dans beaucoup de cas. On va garder les caisses libre-service pour des gens qui ont des plus petits nombres d'items, 6 items ou moins, 10 items ou moins. On a commencé à le voir dans nos épiceries. C'est comme si l'expérience s'ajuste. Jacques Nantel, le professeur émérite au HEC Montréal, est avec nous. Professeur Nantel, bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce que c'est un exemple de balancier là, qui était parti tout d'un bord, puis whoops, il revient vers le centre?
En partie, je vous dirais à peu près à 10 % parce que c'est vrai que dans beaucoup de commerces, il y a des clients qui ont de la difficulté à s'adapter à ces caisses-là qui, on l'a tous expérimenté, ne sont pas toujours très, très, très efficaces. Mais je vous dirais que l'autre 90 %, c'est l'inverse. Le balancier va aller dans le même sens puis va aller même beaucoup plus loin. Une des raisons, sinon la raison principale pour laquelle on voit ce frein qui se met aux caisses électroniques telles qu'on les connaît, c'est qu'il y a une nouvelle technologie qui s'en vient, en fait, qui est même déjà en place dans certains commerces de détail. Ici, au Québec, je pense à Decathlon, je pense à Uniqlo. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle la puce RFID. Alors, cette puce-là, c'est essentiellement gros comme la tête d'une épingle. Ça se met sur l'étiquette de prix. Et lorsque vous rentrez dans un magasin, ceux et celles qui sont déjà allés chez Decathlon ont déjà fait l'expérience, si vous êtes inscrit, et vous devez être inscrit à leur système pour pouvoir acheter là, ben dès que vous prenez un produit et que vous passez la porte, il est automatiquement facturé.
Alors, donc, la puce, votre dossier est déjà lié à votre carte de crédit. La puce dit, le produit vient de passer la porte, il vous est facturé.
Absolument. Donc, vous pourriez cacher des balles de ping-pong dans vos poches ou des fléchettes dans votre veston. C'est clair que vous allez être facturé. C'est de loin la nouvelle technologie et c'est ce qui s'en vient.
On rapporte quand même le cas là, des gens qui arrivaient dans ces lieux-là, dans ces caisses libre-service, qui sortaient insatisfaits de l'expérience. Puis moi, je la rapportais à moi parce que moi, je suis plutôt genre un peu vite, un peu speedé. Puis j'aime ce genre d'affaires-là où je perdrais pas de temps. Finalement, tu te rends compte que, bon, ben là, t'avais une canette de bière. Faut que la madame vienne ou le monsieur vienne. Là, une autre affaire, ça scanne pas. Faut que quelqu'un vienne. Fait que finalement, t'avais 9 items, puis ça t'a pris 3 fois le préposé. Fait que là, on dirait qu'on a de la misère à créer cette fluidité-là, là, cette perfection qui ferait que l'expérience serait parfaitement agréable.
Ah, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui est intéressant dans ces technologies, c'est qu'elles ont été implantées en Europe bien avant de l'être en Amérique, incluant aux États-Unis. Et il y a, côté marchand comme côté consommateur, un certain délai avant qu'on s'habitue, là, avant qu'on sache que des poivrons, ben ça se scanne pas, il faut les mettre sur la balance, puis il faut dire le nombre de poivrons qu'on a. Une fois qu'on a compris ça, et ça peut prendre pour l'ensemble de vos consommateurs une année ou deux, la fluidité augmente de beaucoup. Si on regarde ce qui se passe en Europe depuis déjà plusieurs années, avec cette technologie-là, on est rendu beaucoup plus fluide qu'on ne l'est en Amérique. Maintenant, encore une fois, pour les raisons que j'ai mentionnées, on n'ira pas jusqu'au bout de l'expérience ici parce qu'on parle déjà d'une technologie qui est obsolète, qui est déjà trop vieille, qui commence à être remplacée par autre chose qui est nettement plus performante.
Est-ce que vous décrivez le nouveau système, là? On nous décrivait ça dans les magasins Amazon, je pense qu'ils ont été les premiers, là, les magasins physiques, pas la livraison, mais Amazon a eu quelques magasins physiques aux États-Unis. Ouais. Moi, j'ai vu carrément des gens... Ils sortaient avec leur épicerie, puis elle se scannait essentiellement. T'sais, ils traversaient la porte de l'épicerie, puis la facture se faisait comme quasiment comme la sécurité dans un avion, l'espèce de porte de sécurité qui scanne ton corps. Mais tu passes à travers cette porte-là, elle scanne tes achats, t'es facturé, puis salut. Il n'y a plus de vol qui est possible, il n'y a plus de temps gaspillé.
Oui, puis c'est intéressant parce que ce que vous venez de décrire, c'est une technologie qui est déjà elle-même obsolète. Parce que là, vous n'avez même pas besoin de passer à travers une porte qui va scanner tout ce que vous avez autour de vous. Le seul fait que vous soyez géolocalisé et que le produit qui a une puce RFID soit sur vous ou dans votre panier, c'est suffisant.
Ce que vous décrivez, c'est même pas une arche, là. C'est une géolocalisation que t'es plus dans le magasin, t'es rendu dans le stationnement, ça se facture.
Exact. C'est exactement ça. Alors, c'est la raison pour laquelle vous pourrez, si vous voulez, en fait, à moins d'avoir... Mon Dieu, à moins d'être capable de mettre un produit à distance de vous, je ne sais pas moi, le tirer avec une ficelle, là, c'est sûr que ça va vous être attribué.
Donc, on n'a rien vu là, en matière de technologie pour nous aider à vivre. Parce qu'en même temps, c'est de vivre une expérience agréable. Je comprends que le commerce veut que son client sorte satisfait, puis éviter les voleurs. Puis ça, je comprends que c'est l'autre problème que les compagnies nous disent peut-être pas. Mais les caisses self-service, les caisses autonomes, ils se faisaient voler beaucoup, là.
Oui. Oh. Tu as raison. Ce à quoi on va assister, c'est une efficacité accrue. Puis, dans le fond, ce que cherchent les détaillants, c'est de ramener l'expérience en magasin le plus proche possible de l'examen, de l'expérience que l'on a déjà sur le web. Parce que vous savez, sur le web, maintenant, on est habitué d'acheter sur le web. C'est facile. On
prend, c'est incroyable.
Je prends notamment Amazon. Là. Ils me connaissent, ils connaissent mon numéro de carte de crédit, je mets des trucs dans le panier, je pèse, puis c'est réglé. Mais dans le fond, c'est exactement ce que l'on cherche à reproduire en magasin parce que là-dessus, le web est rendu plus performant que la boutique.
Oui, effectivement. Professeur Nathel, merci beaucoup. Au revoir.
Toujours un plaisir. Au revoir.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
On parle sport. Salut Jean-François.
Salut Mario.
Alors, il y avait quand même du bon hockey hier soir, là.
Ah, vraiment? Moi, je me suis couché tard. J'ai écouté.
Ah oui? T'as tout regardé. Moi, je peux pas faire ça, là.
Ouais, toi, tu te lèves plus de bonheur que moi. Ouais, écoute, vraiment du très, très bon hockey. Hier, là, particulièrement les Panthers contre le Lightning. Je sais pas si t'as vu l'arrêt de Bobrovsky qui a changé.
Mais excuse-moi, oui, mais moi, j'ai pensé à l'arrêt de Carey Price contre Spezza, qui a changé la tournure de la série Canadien-Toronto, l'année miraculeuse où le Canadien s'est rendu en finale. Mais si je pense que Toronto allait prendre une avance de 2 buts. Et Price avait tendu le bâton, un peu du même genre d'arrêt. Là. Tu penses que le but est vide, mais le bâton du gardien vient faire l'arrêt. Je me mettais dans le même club que cet arrêt-là, moi.
Hey, totalement. Je disais Dominique Hachek parce que ça ressemble plus en fait de style.
Ou le style,
oui. D'arrêt qui change complètement une série. L'année passée, on avait vu la même chose à Vegas en finale. Un arrêt miraculeux dans le premier match, puis probablement que ça a fait tourner la série. Fait que le Lightning qui se retrouve 2-0. Sinon, un peu déçu de la performance de Hellebuck, moi qui a mis les Jets contre l'Avalanche. Quoique j'aime bien l'Avalanche, puis honnêtement, j'aimerais ça qu'il gagne. Mais Georgiev s'est relevé de sa déconfiture du premier match, mais Hellebuck hier a pas fait le travail du tout du côté des Jets. Donc la série était 1-1. Puis on a vu l'impact de Thatcher Demko. Là. Les Canucks ont essayé de jouer serré hier parce qu'on savait que c'était Smith devant le filet. Puis on a voulu accorder le moins de lancers possible, mais il y a quand même eu 4 buts hier là, pour les Prédateurs de Nashville. Ouais. Fait que la série est égale 1-1.
Puis Vancouver, ce que tu dis là. Je me demande, est-ce que Vancouver fait une bonne affaire de dire, oui, on va resserrer notre jeu défensif pour qu'il y ait moins de lancers. Rendu là, t'es peut-être dire, ouais, on a un gardien ordinaire, on va essayer de compter, on va jouer à l'attaque. Ils ont une grosse attaque, quand même, Vancouver. Parce que là, ils ont comme été dans un entre-deux où ils ont moins attaqué. Évidemment, ils ont fait juste un but, puis les autres en ont marqué 4 quand même. Ça a pas marché pantoute, là.
Non, pis ça sera pas facile pour Vancouver parce que moi, ce qui me faisait pencher pour les Prédateurs en début de série, c'est qu'ils ont des vétérans, là. Romagnosi, O'Reilly, Forsberg, des gars qui ont déjà connu le tabac. Alors que Elias Pettersson, exemple, du côté des Canucks, là, il est invisible depuis le début de la série, mais lui, c'est ses premières séries, là. Puis là, imagine, on s'en va à Nashville. L'entraîneur de Nashville va avoir le dernier changement. Fait que ça sera pas facile de marquer autant de buts. Pour dire qu'hier, du côté des Prédateurs, on a bloqué quelque chose comme 70 lancers, là. Ils se sont donnés à l'ouvrage.
Bon. Cole Caulfield, lui, se prépare à rejouer au hockey.
Hey, moi, je pensais honnêtement, j'ai vu la nouvelle aujourd'hui, je pensais que c'était déjà fait. Quand il a dit « je veux aller avec l'équipe, mon équipe nationale à la Coupe du monde », dans ma tête, c'était évident là, qu'on allait le choisir. Mais là, aujourd'hui, ça a été annoncé officiellement qu'il faisait partie de cette équipe-là. Avec des gars, tu sais, Daryl Larkin, là, qu'on a vu avec les Red Wings de Détroit, tout un joueur de hockey. Son bon chum, Trevor Zegras, il y a des rumeurs de lui à Montréal, ben va se retrouver aussi dans l'équipe américaine. Il va avoir une grosse équipe du côté des États-Unis. Les bons joueurs sont là comparativement au Canada. Il faut dire que Bill Guérin, qui est le DG de cette équipe-là, lui a dit, c'est une audition. Vous avez le droit de me dire non, les joueurs éliminés. Mais moi, je vais m'en souvenir quand va venir le temps de la Coupe des Nations, là, que la Ligue nationale de hockey veut organiser. Puis quand va venir le temps des Olympiques.
Les Olympiques, mais ouais.
Fait que
mais ça va être intéressant pour les partisans. Ouais, ça va être intéressant pour les partisans du Canadien de voir quand même, tu sais, Caulfield avec d'autres joueurs, toutes des vedettes de différentes équipes, comment ils se comportent, qu'est-ce qui. Tu sais, parce que là, on le voit toujours dans l'univers du Canadien avec les limites quand même de l'équipe. T'as pas 4 trios talentueux, mais comment ça va dans une équipe comme ça où c'est toutes des joueurs étoiles, plus ou moins, là, comment il va se comporter?
Ouais, puis comment ils vont l'utiliser aussi, où est-ce qu'ils vont l'installer, tu sais, puis on va peut-être découvrir de nouvelles facettes en field. Ça va être intéressant de le voir jouer. Ça se peut que Matheson soit là pour le Canada. Slavkovski a déjà dit qu'il voulait être là pour son pays aussi. Fait que ça se peut qu'on le voit contre d'autres joueurs du Canadien. Ça va être un tournoi plus intéressant à suivre que dans les dernières années où souvent on n'avait pas de représentants, il n'y avait pas de joueurs vedettes. Là, il y a pas mal de joueurs vedettes à travers la Ligue nationale qui vont s'y retrouver.
Une histoire de paris sportif là, qui vient éclabousser un joueur de la Ligue canadienne de football.
Ben, un joueur des Alouettes.
Un joueur des Alouettes, oui. Il a
pas parié du temps qui était avec les Alouettes, c'est du temps qui était avec Calgary, mais ça explique pourquoi il a signé un contrat, puis deux semaines après, il a annoncé que finalement, il prenait sa retraite. On n'a pas trop compris pourquoi. Là, on comprend, c'est que lui, il venait d'être mis au courant qu'on avait trouvé, qu'il avait parié sur des parties. Donc, a été suspendu par la Ligue, a décidé de prendre sa retraite en échange. On a été capable de prouver que lui a parié, mais que le groupe d'entraîneurs, les propriétaires, les autres le membres du personnel de Calgary n'étaient pas au courant. Donc, il n'y aura pas de sanction du côté de Calgary. Mais carrière terminée pour Sean Lennon, joueur des Alouettes, qu'on a bien aimé l'année passée lors de la conquête de la Coupe Grey.
Et en quelques secondes, des questions qui se posent à la veille du match Bruins-Leafs de ce soir.
Ouais, ben écoute, ça va être Swayman le gardien, parce que bon, on est en alternance du côté des Bruins. Est-ce que Nylander va être dans la formation? Je crois pas parce qu'il a fait de l'extra ce soir. Et à Toronto, la page frontispice, c'est l'homme invisible. Mitch Marner, où es-tu? C'est ce qu'on se demande du côté de Toronto.
Il y a toujours de la pression sur lui en série. Il livre jamais ce qu'on attend. Hey, merci, à demain. Merci à vous. On se retrouve demain 16h. Kid.